Alors bonsoir. Avant d'entrer dans le sujet, petite annonce. Le manager m'a prévenu que la dernière fois où j'avais parlé pendant pratiquement 2 heures, c'était long et c'est difficile de rester concentré autant de temps. Il m'a demandé de parler plus court. Alors la dernière conférence, j'ai réussi un exploit de me tenir à 1 heure. Et en 1 heure, c'était bouclé. Malheureusement, cette fois-ci, je ne pense pas que ça sera possible. Ça va un petit peu dépasser. Je vais essayer que ça ne dépasse pas trop, mais nécessairement, on n'a pas le choix. Ça dépassera. Il y a tellement, tellement de choses à dire que même en résumant un maximum, ça va coincer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que justement, comme on n'a pas assez de temps, je vous demande de garder les questions pour la fin. Si vous n'avez pas l'occasion à la fin de poser les questions, il y aura sur le site de Aleph, la conférence sera mise en ligne, et il y aura une possibilité de poser des questions là-bas. Blinder, j'y répondrai dès qu'on m'informera qu'il y a des questions. Et troisième et dernier point, nos conclusions d'aujourd'hui ne sont à prendre uniquement la halakha, pas la halakha les maaseh. Nuance, subtilité. C'est-à-dire, ce qu'on va dire, c'est une recherche halakhique. Maintenant, pour savoir concrètement comment pratiquer cette halakha, ask your rabbi. Ok, donc avant de éventuellement faire des kiddushin ou réserver des salles, demandez à votre rabbin, sait-on jamais. Donc le sujet ce soir, c'est la polygamie. On a l'habitude de dire... Déjà les questions?
Pardon. Est-ce que justement, parce que la dernière fois c'était très long et très dense, et on n'a pas posé de questions, parce que tout le monde s'est levé parti.
Oui, il y a une possibilité de poser des questions toujours sur Internet.
On peut
pas
faire un break de 3 quarts d'heure?
Oui, mais à ce compte-là, on pourrait, mais à ce compte-là, on finirait à quelle heure?
Non, mais on fait un break. Non. Ça, c'est une
pause,
on pose certaines questions et après...
Vous... Alors, Blinéder, à la fin, on fait un vote. Une fois que j'ai terminé, on fait un vote. Alors...
Merci pour la réponse.
Donc, le sujet, c'est la polygamie. On a l'habitude de dire que la polygamie est interdite par décision de Rabbeinu Gershom, donc d'un rabbe, Rabbeinu Gershom Meragola, c'était un rabbin français qui habitait en Allemagne, qui a décrété... associé avec énormément de rabbanim de l'époque, d'interdire la polygamie, qui, par la Torah, est permise. Il n'y a pas d'interdit au niveau de la Torah. Donc notre sujet de ce soir, c'est d'éclaircir d'abord quel est exactement l'interdit, quelles sont les limites de cette gzera, de cette takana, si c'est interdit pour tout le monde ou bien peut-être pas tout le monde n'est concerné, dans quel cas ça serait éventuellement permis, s'il conviendrait ou pas d'annuler le kherem lorsque la possibilité se présente, etc. La question majeure, la question essentielle, ce qui m'embête le plus, et c'est ça que j'aimerais essayer de répondre, la vraie question, c'est que si la polygamie est quelque chose de négatif, la question se pose, pourquoi la Torah ne l'a pas interdite d'elle-même? Pourquoi il a fallu attendre Rabbeinu Gershom? Et inversement, si ça n'est pas négatif, et c'est pour ça que la Torah ne l'a pas interdite, alors pourquoi Rabbeinu Gershom l'a interdite? Et ça, ça va coincer Mima Nafsha, de deux choses l'une, soit c'est négatif, soit ça ne l'est pas. Et pourtant, on voit la Torah qui permet, Rabbeinu Gershom qui interdit. C'est ça mon but. Ce soir, j'aimerais éclaircir ce point-là. Alors, un petit plan d'abord, pour pas que ce soit trop embrouillé. Un petit plan de comment j'espère procéder. Deux parties. Première partie, la partie halakhique. Ça veut dire un flash info, savoir grosso modo les grandes lignes de la loi de Kherem de Rabbeinu Gershom. Deuxième partie, une recherche historique. Qu'est-ce qui s'est passé, surtout à l'époque du Talmud? La première partie va se subdiviser en 4 petits morceaux, 4 petits volets. D'abord, savoir quelles sont les chitotes concernant le ta'am de la takana, la raison pour laquelle Rabbeinu Gershom a interdit. Ensuite, les chitotes concernant pour combien de temps a-t-il interdit, quelle est la durée de la takana. Troisième volet, il y en a 4. Troisième volet, la gravité du issur. Est-ce à considérer comme un interdit minatora, midrabanan? Comment il faut considérer le issur? Quatrième et dernier volet de cette première partie, qui sont les personnes concernées? Est-ce que les Sfaradim sont concernés? Quel pays? Etc. Ça, c'est la première partie. Après ça, pour comprendre si ce kherem est quelque chose de positif ou de négatif en soi, j'entends bien négatif malgré que Rabbeinu Gershom ait fait la takana, il est possible, parfois des rabbins sont contraints de décréter quelque chose à cause d'une situation, ils savent bien que c'est pas génial, mais il n'y a pas le choix. Peut-être c'est ça la takana, peut-être en fait c'est négatif, mais il n'y a pas le choix. Ou bien peut-être, non, c'est positif, c'est quelque chose de bien. Alors pour savoir comment considérer cette takana, on va justement enclencher sur la deuxième partie, qui elle sera une recherche historique. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque du Talmud? Comment les maîtres du Talmud se comportaient? Étaient-ils ou non polygames avant la période du Kherem de Rabbeinu Gershom? Je précise juste, pour avoir une idée un peu des dates, Rabbeinu Gershom, sa takana, il l'a fait étant assez âgé, il est décédé plus ou moins en l'an 1028 ou bien 1038. Il y a deux versions, d'accord ? Un peu avant la naissance de Rachid. Donc à l'époque du Talmud, on était plus d'un demi-millénaire avant, il n'y avait aucun interdit officiel. La question c'est comment les rabbins se comportaient ? Pratiquaient-ils la polygamie ou non ? Et on verra qu'il y a une machloket à Haronim sur ce sujet aussi. Et on va tenter d'amener quatre preuves pour les rabbins qui disent que la polygamie était pratiquée parmi les rabbins du Talmud, et quatre preuves inverses. Après, évidemment, il faudra essayer de résoudre cette contradiction pour aboutir à notre conclusion, qui, j'espère, sera un chidouche. Est-ce que, vrai ou non, ça sera à vous de choisir, de décider. Moi, je vous le présente, c'est tout. Alors, je commence. Partie halakhique, premier volet, la raison de la takana. Sur la raison de la takana, on a quatre chitotes. Quatre opinions différentes. Pourquoi Rabbeinu Gershom a interdit la polygamie ? Premier, le Maharam Padve. Maharam Padve, dans son responsable, dans le Shout Siman Yud Dalet, écrit que la raison de l'interdit de Rabbeinu Gershom, c'est un problème de Parnassa. C'est tout. C'est un problème d'argent. Il a dit, si jamais on laisse les gens, ils vont se marier avec une seconde femme. Après, ils n'auront pas les moyens de subvenir aux besoins des deux épouses. Vous imaginez déjà avec une carte bleue ce que ça représente. Imaginez deux. Ça serait embêtant, c'est difficile. Avant, il n'y avait pas ce problème parce qu'ils habitaient sur place en Israël. Maintenant, avec la galoute, etc., ça devient difficile. On est persécuté et expulsé sans arrêt. La Parnassa va moins bien. Par conséquent, il aurait interdit pour un problème de Parnassa. Intéressant à noter au passage qu'il souligne aussi, non seulement deux épouses, donc les deux cartes bleues, mais en plus, il y aura nécessairement plus d'enfants. Et donc, ça coûte encore plus cher. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, celle du Maharik. Le Maharik, dans Shoresh Kouf Aleph Siman Dalet, le Maharik écrit que la raison de la takana de Rabbeinu Gershom, c'est l'igdor bifne apritsi, mettre une barrière devant les voyous, devant les débauchés, à mes olelim beneshotem shelo karaoui, qui maltraitent leurs femmes. C'est-à-dire que la takana de Rabbeinu Gershom, c'est une takana pour le respect de la femme. Les femmes étaient maltraitées. Rabbeinu Gershom dit, si on interdit de se marier avec deux personnes, ça calmera certains esprits. Troisième raison, celle citée par le Ran. Le Ran, Rabbeinu Nissim, donc c'est un Rishon du XIVe siècle, le Ran dans Shutaran Siman Memchet, dit que la raison de la takana de Rabbeinu Gershom, c'est pour éviter les disputes. Il dit, une personne qui se marie avec deux femmes, il n'aura que des disputes à la maison, laisse tomber, ça sera plus calme, si on n'a qu'une seule, ça suffit. Cette idée est mentionnée encore par d'autres, on l'a dans le Shut du Maharil, le Maharil dans son responsable Siman Kouf Aleph aussi dit que c'est un problème de dispute, et on retrouve cette idée déjà avant, cette idée par Rabbeinu Avigdor, Rabbeinu Avigdor c'est un Rishon, cité par le Mordechai dans Masechet Ktuvot, Siman Reish Tzadik Aleph, déjà il mentionne Rabbeinu Avigdor qui disait que c'est un problème de dispute. C'est machma comme ça dans énormément de Haronim, que le problème c'est un problème pour éviter les disputes, c'est comme ça qu'on retrouve chez Reb Chaim Paladji dans son responsable Chaim Veshalom Chelek Bet Siman Tetzain, et aussi le Aruch HaShulchan dans Eben Ezer Siman Aleph Sif Ravrimel, et encore beaucoup d'autres Haronim mentionnent cette idée que la raison de la takana c'est un problème de dispute. Donc on est déjà trois raisons pour l'instant on a cité. La Parnassa, le respect de la femme ou éviter les disputes. Le Khatam Sofer, dans le Shut Khatam Sofer, Even Ezer Chelek Aleph Siman Aleph, en mentionne deux. Mais deux des raisons qui ont déjà été citées. Il écrit que l'interdit c'est Mishum Ktata, à cause des disputes, pour éviter les disputes, ou Delo Matselimikam Besipukayu. Et aussi que techniquement le mari aura du mal à subvenir aux besoins des deux épouses. Donc grosso modo, ce qu'il retient c'est le Ta'am du Ran et celui du Maharam Padve. Que on évite, le problème c'est les disputes et les problèmes de Parnassa. Quatrième et dernier ta'am qu'on va citer pour cette partie-là, c'est le Yahabetz. Le Yahabetz c'est Rabbi Yaakov Emden. Rabbi Yaakov Emden, il écrit dans Sheilat Yahabetz, Chelek Bet Siman Tetvav, dans son shoot, dans son responsable, il écrit que la raison du Issour n'a rien à voir avec un srach issou. Il n'y a rien à voir avec un quelconque péché. Il ne faut pas imaginer que la polygamie, c'est pas bien, etc. Mais non, c'est très bien. La raison du issour, dit-il, c'est simplement parce qu'on habite parmi les non-juifs, parmi les goïms, qui eux sont chrétiens, et chez eux, ça ne se fait pas. Et donc, il y a un problème de Chilul Hashem. C'est tout. Mais en soi, c'est très bien. Si on n'habite plus avec eux, hop, le problème. Le problème, c'est qu'on habite parmi les chrétiens, et c'est embêtant par rapport aux goïms, ça fait un Chilul Hashem. C'est pourquoi le Yahabet, fort de cette svara, déduit, j'y arrive après, on va parler des svaradim. J'y arrive, courage, patience. C'est pourquoi le Yahabetz, avec cette logique-là, va à l'encontre du Ran. Et il dit, lorsque le Ran écrit, parce que le Ran écrit aussi que s'il y a une personne d'un pays concerné par la Xéra, on va dire un Ashkenaz, qui part dans un pays svarad où la Xéra ne s'est pas répandue, Le Ran dit, désolé, il embarque le Issour avec lui. Il trimballe la Takana avec lui. Akarkarta de Gabri. Le Issour, il est sur les épaules du bonhomme. Tu peux pas t'enfuir, c'est comme ça. Fallait pas naître ici, on n'y peut rien. C'est le droit du sol. Tu t'es fait avoir, fallait naître ailleurs. Et donc tu peux t'enfuir là où tu veux, tu seras toujours sous le coup de l'interdit de Rabbeinu Gershom, il n'y a rien à faire. C'est comme ça que le Ran dit. Viens le Yahabès, il dit, je suis pas d'accord. C'est pas vrai. Étant donné que le problème, c'est uniquement pour un problème de Chilou Lachem, pour pas que les Goïms disent, etc. Si un juif naissant dans un pays où c'est problématique, où il y a Chilou Lachem, lorsqu'on pratique la polygamie, si ce juif-là part en vacances ailleurs, va habiter ailleurs à Tahiti ou j'en sais rien, là où il n'y aurait pas le Issour, eh ben c'est moutard, pas de problème. Si là-bas les Goïms aussi pratiquent la polygamie, il n'y a plus de Chilou Lachem et tout va bien. Ça, c'est l'idée du Yahabetz. Le Yahabetz va encore beaucoup plus loin dans ce responsable. Il écrit, mais à Raoui, Haya, Levatel, il conviendrait d'annuler ce Chelem. Le Yahabetz n'aimait pas du tout cet interdit de Rabbeinu Gershom. Et il explique pourquoi il faudrait l'annuler, dit-il, parce que la Torah nous a interdit le znout, nous a interdit l'anida, c'est pour ça qu'elle a permis la polygamie. Parce qu'on ne peut pas tout interdire. C'est comme ça que dit le Yahabetz. C'est intéressant parce que j'aimerais lui demander une seconde. La Torah a aussi interdit le znout et l'anida aux femmes. Et pourtant, elle n'a pas permis la polyandrie. C'est seulement la polygamie qui était permise. Polyandrie, c'est interdit dans la Torah. Un homme marié à deux femmes, ça existe dans la Torah. Une femme mariée à deux hommes, non, en aucun cas. Alors apparemment, le Yahabetz devait considérer que les femmes ont moins de Yetzer Hara, je ne sais pas, mais en tout cas, il explique réellement que la raison pour laquelle la Torah permet la polygamie, c'est pour faire contrebalance contre ce problème-là, ces interdits, l'interdit de Nida et de Znout. Il précise que Rabbeinu Gershom n'a pu interdire uniquement parce qu'il a interdit Beshev Ve'altaaseh, c'est-à-dire de manière passive, parce que vous savez, quand la Torah dit quelque chose, on peut pas venir, un rabbin vient et dit « je suis pas d'accord avec la Torah », ça n'existe pas. Donc si la Torah permet la polygamie, on est coincé. Comment ça se fait que lui vient interdire? Alors on peut interdire contre la Torah, alors ce que la Torah n'a pas interdit, dans la mesure où c'est Beshev Ve'altaaseh, c'est-à-dire de manière passive, pas active. Les rabbins ne peuvent pas venir dire « fais quelque chose qui va à l'encontre de la Torah ». Ils peuvent dire « ne fais pas quelque chose que la Torah permet ». Ça oui. Donc il souligne bien que c'est que ça qui a pu permettre à Rabbeinu Gershom d'aller à l'encontre de la Torah, parce que lui il considère que la volonté de la Torah c'est de permettre, même voire d'encourager la polygamie. Et il ajoute que « Mais à Raoui, aya limnoam il essor le yehudi jete nashim mishum issur bechukotehem lotelechou » Il dit c'est pire que ça, le chérem de Rabbeinu Gershom est très difficile à encaisser parce que ça frôle de justesse l'interdit de Bechukotem Lotelechou, l'interdit d'imiter les lois des religions non juives. Chukot Hagoy, l'interdit, il ne faut pas croire que tout ce que fait un Goy c'est interdit de l'imiter, hein, on ne peut pas tout interdire. Interdire d'imiter chaque chose du Goy, non, si un Goy a des lunettes, on peut avoir des lunettes. Chukot Hagoy, ça signifie, comme les poskim le ramènent déjà les Lechonim, mais le Bet Yosef le ramène lui-même. Chukot Hagoy, c'est deux choses. Soit un Chok Avodazara, c'est-à-dire une loi liée à leur religion, assour d'imiter. Et c'est de ça que parle le Yahabetz ici, parce que dans leur religion, la polygamie est interdite, donc ils considéraient que, voilà, c'était limite. Et deuxième chose qui est interdite dans Chukot Hagoy, c'est un Chok d'Egoïm, même s'il n'a rien à voir avec la religion, mais qui touche au Midot. Qui touche au Midot Tovot. Si les Goïms ont une habitude, pas religieuse, une habitude d'être grossier par moment, ou d'être je ne sais pas quoi, désagréable, donc c'est contraire au Midot, c'est aussi sous le coup du Issour de Bechukotem Lotelechou. Bref, ça c'est l'idée du Yahabetz. Le Yahabetz donc s'opposait à cet interdit de la polygamie, d'ailleurs il s'opposait à beaucoup de choses le Yahabetz, c'est vrai que c'était un grand révolutionnaire. Dans la suite de cette même Tshuva, il écrit Harbe Meminhag et Ashkenaz, beaucoup des coutumes allemandes, beaucoup des coutumes qu'il y a ici en Allemagne. Alevai, Shelo Ayu, Velo Nivraou, à la chaîne de ce style-là, il aurait mieux valu qu'elle n'existe jamais toutes ces coutumes, sur beaucoup de coutumes. Il trouve que beaucoup de coutumes sont mauvaises, parce qu'elles amènent plus de problèmes que de bonnes choses. Donc voilà, il s'opposait à la polygamie, enfin à l'interdit de polygamie, il s'opposait à beaucoup de choses, cependant, il ne l'a jamais permis, il n'a pas permis pour autant la polygamie, puisqu'on est sous le coup de l'interdit, on n'y peut rien, mais ça l'énervait, il n'aimait pas ça. Il ne faut pas s'affoler, le Yahabetz, il n'aimait pas beaucoup de choses encore, il s'est opposé aussi au Issour Kitniot. Les Ashkenazim ne mangent pas de légumineuses à Pessah, certains Sfaradim aussi, les Kitniot, dans Sefer Mor Uktsiar, c'est son livre sur le tour, on va Chaim Siman Taf Nun Gimel, le Yahabetz écrit, je crois même au nom de son père, que son père souffrait terriblement de cette idée de quitte-niol, qu'il trouvait que c'était négatif, c'est pas bien, et qu'il aurait mieux valu annuler cette coutume, parce qu'à cause de ça, les gens font attention de ne pas manger des quitte-niol, mais après on n'a pas assez de quoi manger pendant Pessah. Et donc, pour faire des matzot, on émet qu'elle, même quand la farine, elle a peut-être un peu touché de l'eau, des choses très embêtantes qui sont mille fois plus graves, alors qu'on pourrait manger tranquillement des choses qui sont quitte-niol et vivre avec. Donc il est contre le minhag des quitte-niot. Il était contre aussi le Mishé Berach lors des aliyot de la Torah. Quand on fait Kriyat HaTorah à Shabbat, Mishé Berach entre chaque aliyah, il n'y a pas que lui qui est contre, hein, vous allez me dire, il y a beaucoup de gens de nos jours qui sont contre, avec des Mishé Berach qui n'en finissent plus, et on est là à attendre, et la lecture n'en finit plus. Il était contre quoi encore? La vente des mitzvot dans la synagogue à Shabbat, il dit c'est quoi ces manières, etc. Enfin, il était contre beaucoup, beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire, parce qu'il était contre, qu'il a réformé quoi que ce soit. Il a respecté. Il n'a pas ni cherché à créer le buzz avec ça, lui, là. Ce qui s'est passé, c'est tout. Il a dit, moi, je trouve que c'est pas bien. Maintenant, seul, je ne peux pas aller à l'encontre. Dans les quitte-niot, il dit clairement, si d'autres veulent s'associer à moi, alors on peut essayer de faire passer une loi, etc. Mais aller comme ça, venir tout chambouler, pas possible. Beaucoup trouvent que le cherem de Rabbeinu Gershom est excessif. Le Rav Ovadia Yosef, dans Yabia Omer, Chelekret, Ebenezer, Siman Bet, ramène encore plusieurs acharonim qui tentent de limiter autant que faire se peut l'interdit de Rabbeinu Gershom contre la polygamie. Plusieurs acharonim écrivent que si on ajoute trop en étant mahmir dans ce cherem, on risque de faire des coulottes ailleurs. Il vaut mieux ne pas être trop mahmir. Par exemple, Rabbi Betzalel Zev Shafren dans le Shut Aravaz, Even Ezer Siman Chavav, le Khatam Sofer dans Siman Gimel, écrit que les rabbanim qui sont mahmirim dans la takana de Rabbeinu Gershom, Rabbim Chalalim Ipilou, ils ont fait beaucoup plus de dégâts que ce qu'ils ont arrangé. Bref, il ne faut pas en faire trop. C'est pas le seul Yahabet à être contre cette takana de manière assez virulente, assez nette. Il y a aussi, bizarrement, le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna était plus discret, il a marqué dans aucun de ses livres. Comme ça, au moins, ça passe tranquille. Ah, mais alors, d'où est-ce qu'on le sait? Le Gaon de Vilna, en fait, il l'a marqué nulle part. Nous, on le sait d'une lettre de Rabbi Shmuel Heller de Tzfat. Rabbi Shmuel Heller de Tzfat, c'était un élève de Rabbi Israël de Shklov. Rabbi Israël de Shklov, c'était un des grands élèves du Gaon de Vilna. Rabbi Shmuel Heller de Tzfat, il a écrit une lettre à un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Akiva Yosef Schlesinger. La lettre est datée du 14 Tevet Tafresh Lamedvok, ça veut dire 1876, enfin c'est en Tevet, peut-être c'était en décembre 1875 ou janvier 1876, dans laquelle il écrit, cette lettre est ramenée dans un livre de Toldot du Gaon de Vilna écrit par Bezalel Landoy. Dans ce livre là-bas, il ramène in extenso tout le texte de la lettre, ça se trouve page 107, note 65 dans ce livre-là. Et en lisant cette lettre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Rabbi Israël de Shklov a dit, que lui a dit à ce rabbin-là, à Reb Shmuel Heller, il lui a dit que plusieurs fois le Gaon de Vilna avait dit, non, lui-même a dit plusieurs fois à son élève que le Gaon de Vilna avait dit que s'il pouvait annuler ce cherem de Rabbeinu Gershom, il le ferait. Et pire que ça encore, il dit que s'il fallait pour annuler le cherem, qu'il soit mevatel Torah ou Tfila, pour qu'il tournicote, mais ir le ir ou mimdina le mimdina, il l'aurait fait. S'il fallait pendant un moment arrêter d'étudier, vous savez chez le Gaon de Vilna ce que ça veut dire arrêter d'étudier, c'est pratiquement arrêter de respirer. Il était prêt à arrêter d'étudier le temps qu'il fallait et arrêter de faire la prière même le temps qu'il fallait, pour pouvoir tournicoter, passer d'un pays à l'autre, pour... Alors, pas clair si c'est pour diffuser la bonne nouvelle, on a annulé le cherem, ou bien pour récolter, faire un sondage chez les rabbins et récolter les opinions qui veulent s'associer à lui, mais en tout cas, pour permettre ce issour de Rabbeinu Gershom, s'il le fallait, il était prêt à beaucoup. Il y a une deuxième chose là-bas, entre parenthèses, au passage, ça n'a rien à voir, mais une deuxième chose qu'il cite, pour laquelle il était prêt à faire le tour du monde, et perdre beaucoup de temps, c'est pour annuler la coutume qu'ont les Ashkenazim de ne pas faire Birkat Kohanim en semaine. Les Ashkenazim font seulement Yom Tov Birkat Kohanim. Gaon de Vilna, il pensait qu'il fallait faire tous les jours. Seulement, la coutume est de pas faire, alors on fait pas. Mais ça l'embêtait aussi. On a jusque-là quatre raisons pour expliquer le ta'am de la takana, pourquoi Rabbeinu Gershom a interdit. Encore un point qui peut être lié, peut-être, mais je suis pas sûr, ce qu'écrit le Rambam. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, troisième livre, Chelek Gimel, Perek Memtet, chapitre 49. Le Rambam écrit quelque chose qui semblerait-il est lié au cherem de Rabbeinu Gershom, mais il n'a pas dit concernant ce cherem, bien évidemment, que le issur arayot, les interdits des rapports illicites, les unions illicites, et mechuvan le mi'ut hatashmish vetiuvo ou le istapek mimenu bemu'at shebemu'at. Le but dans l'interdit des unions illicites, c'est pour rendre la cohabitation plus rare et pour que le tashmish se fasse rare. Donc apparemment, ils considéraient que c'était pas bien, même dans le cadre d'un mariage moutard, etc. Avec ça, alors on peut s'imaginer que le Réhram de Rabbeinu Gershom est aussi axé un petit peu dans ce sens-là, un petit peu à l'instar, on va dire, de la Takana de Ezra citée dans la Gemara, que Kedeshelo yé talmide chachamim metsui metsel meshotem ketarne goilim, comme c'est marqué, comme chacun sait, dans la Gemara Brachot d'Afra Bet, Amoud Aleph. Peut-être, c'est un peu la même idée, peut-être c'est lié à ça et à ce compte-là, on nous révèle. En tout cas, c'est clair que ce qu'écrit le Rambam ici, ça ne colle pas du tout avec l'opinion du Yahabetz. Cependant, le Yahabetz ailleurs, alors je ne sais plus où, j'ai cherché, je croyais que c'était dans son livre sur Pirkei Avot, dans Etz Avot, dans Perek Dalet, Mishnah Yud Aleph. J'ai cherché là-bas, mais je n'ai pas trouvé, donc apparemment ce n'est pas là-bas. Je ne sais plus où je l'ai lu, mais je me rappelle avoir lu du Yahabetz. Je faisais un peu les Shvachim des Komarim, il dit, somme toute, un curé, c'est quand même pas mal, parce que, voilà, il a fait vœu de célibat, c'est pas évident, c'est une darga de Kedusha. Donc il semblerait subitement penser que c'est une Kedusha, voilà, ça se contredit un peu, je laisse ça de côté parce qu'on n'a pas le temps. Résumé de cette première petite partie, on a quatre shitot essentielles citées, pourquoi Rabbeinu Gershom a fait sa takana, soit problème de Parnassa, soit pour instaurer le respect des femmes, soit pour éviter les disputes, soit les problèmes de Chilul Hashem, comme dit le Yahabetz. Deuxième petite partie. On a dit qu'on a quatre parties dans ce premier volet. Deuxième petite partie, la durée de la Takana. Et là aussi, quatre shitot. Quatre shitot pour la durée de la Takana. Première shita, Rabbi Yosef de Cologne, le Shout Maharik, Shoresh Kuf Alef Siman Dalet. Il écrit au nom du Rajba, je vous le cite, Shamanu Shelo Gazar Ela Lezman Sof Elef Achamishi. On a entendu, il y a une rumeur comme ça, on a entendu que Rabbeinu Gershom a fait sa takana uniquement jusqu'à la fin du 5e millénaire, pas plus loin. Fin du 5e millénaire, ça veut dire jusque l'an 1239, vers la fin de l'année 1239. Ça veut dire qu'en 1240, finito, plus de problème. On retrouve cette idée dans le livre du Rajba lui-même, dans le Shuta Rajba, mais pas sous la plume du Rajba, sous la plume de celui qui pose la question au Rajba. Vous savez, dans le responsa, le Rajba cite celui qui pose la question et il amène sa réponse. Dans le responsa du Rajba, Chelek Dalet Siman Kuf Peivav, on retrouve cette idée-là que le Chérem de Rabbeinu Gershom serait uniquement pour le 5e millénaire. Arrivé l'an 1240, fini, plus de problème. La même idée se retrouve dans le Radbaz. Le Radbaz dans Siman 1180. Le Yahabetz aussi dans Sheilat Yahabetz qu'on a cité, Chelek Bet Siman Tetva, lui aussi considère que l'interdit de toute façon n'est censé concerner que jusqu'à la fin du LF, etc., etc. Ça c'est la première shita. Deuxième shita, certains écrivent que de nos jours, en effet le Kherem est terminé. C'est vrai, le Kherem est terminé, mais c'est malgré tout interdit à cause du Minhag. On a gardé en tant que Minhag, plus en tant que Kherem, mais en tant que Minhag. C'est l'opinion du Maharaj Dam. Dans Eben Ezer, Simana Inchet, qui dit que ça reste un sourd midin minhag. Troisième shita, le Yam Shel Shlomo. Yam Shel Shlomo, Rabbi Shlomo Luria, lui n'est pas d'accord du tout. Il dit c'est pas vrai. Dans son Yam Shel Shlomo sur Yivamot, Perek Vav Siman Mem Aleph, et il réécrit la même chose dans son responsable Shutmar Shal Siman Yud Dalet, le Rav Shlomo Luria dit c'est certain, le Kherem de Rabbeinu Gershom était fait pour être éternel. Il n'y a pas de durée de limite ou de date de péremption du Kherem. Il marche toujours jusqu'à aujourd'hui et il continue. Pourquoi ? Il y a une preuve très simple. On voit qu'après l'an 1240, les Rishonim, dont ce qu'il cite, le Mordechai, le Smak et le Orzaroua, quand ils parlent de l'interdit de la polygamie, ils appellent ça la Takana de Rabbeinu Gershom. Or, si c'était annulé, s'il n'y avait plus, ou bien s'il y avait mes comédines minhag, ils n'auraient pas dit qu'on transgresse la takana de Rabbeinu Gershom. S'ils citent ça au nom de Rabbeinu Gershom, c'est qu'ils considéraient que le Kherem était éternel. Ça, c'est la preuve de Yam Shel Shlomo. Et il ajoute que ce que nous dit le Maharik, ce qu'on a cité avant, qu'il a entendu dire que ça serait que jusque l'an 1240, il dit cette rumeur citée par le Maharik, en laïka, elle n'a pas de fondement, c'est du blabla. C'est des rumeurs, c'est pas vrai. Le Kherem reste un vrai Kherem pour toujours. Il précise que de toute façon, les arguments, les ta'amim, les raisons pour lesquelles Rabbeinu Gershom a été poussé à faire ce Kherem sont toujours valables. L'angoisse de Parnassa, l'angoisse des disputes, c'est pourquoi on annulerait ça. C'est pas le seul à penser ça, que le Kherem de Rabbeinu Gershom est éternel. C'est aussi le dat du Chavotier dans Siman Kuf Rav Dalet. Et le Khatam Sofer dans Eben Ezer Siman Bet et dans Choshen Mishpat Siman Resh Gimel va encore plus loin et il écrit que si le Maharik et le Rama avaient su ce que disait le Maharshal, ils n'auraient jamais écrit ce qu'ils ont écrit. C'est un chidouche parce que le Maharik était avant le Maharshal pour savoir, etc. Mais bon, en tout cas, lui, il dit, s'ils avaient su ce que dit le Maharshal, ils auraient été d'accord, ils n'auraient pas dit que c'est la fin du Kherem, etc. Ils l'auraient suivi. Dans le shoot du Bet Yosef, le Rav Yosef Karo, sur les lois de la Ktuva, dans Siman Yud Dalet, dans Dine Ktuva de Siman Yud Dalet, il explique que ce n'est pas une preuve que Dieu le Maharshal. On peut expliquer que si on voit dans les Rishonim qu'ils considèrent, qu'ils appellent cet interdit, l'interdit de Rabbeinu Gershom, on peut l'expliquer très simplement. C'est qu'en fait, l'interdit, c'était jusque l'an 1240. Après ça, c'était moutard. Seulement les rabbins de cette époque-là, ils se sont dit, somme toute, elle est bien cette takana, pourquoi on va l'annuler? Pourquoi on va la laisser disparaître? Alors on va continuer. Mais ce n'a que le statut d'un minhag, comme on avait dit avant. Seulement, comme tout le monde l'appelait jusqu'à la veille, jusqu'hier, jusqu'à Erev Rosh Hashanah, tout le monde appelait ça le Kherem de Rabbeinu Gershom, on a continué à l'appeler comme ça. Mais ça ne veut pas dire que le Kherem lui-même continue. Ça, c'est l'opinion du Beit Yosef. Et quatrième et dernière shita, qui s'insère bien à la suite de ce Beit Yosef, c'est celle du Aruch HaShulchan, le Rav Epstein, dans Even Ezer, Siman Aleph Sif Rav Gimel. Le Aruch HaShulchan dit pratiquement comme le Beit Yosef, il dit, mais même d'après ceux qui pensent que la Xéra se termine avec l'an 1240, malgré tout, les Bnei Israël, les Juifs ont continué cette Xéra, ils l'ont gardée, ils l'ont prolongée, Ve'atakana betokfa ad biat goel. Et c'est la Takana elle-même qui est betokfa, qui est en vigueur, jusqu'à la venue du Messie, on est toujours sous l'interdit de Rabbeinu Gershom. C'est la nuance avec le Beit Yosef, c'est pas que maintenant on continue en tant que minhag. Maintenant, on continue en prolongeant la takana de Rabbeinu Gershom. Ce serait une sorte de clause que Rabbeinu Gershom aurait laissée. Ma takana, c'est jusque l'an 1240. Si jamais les rabbins de l'époque décident de la continuer, ça continue. Mais ça continue en restant sa takana. Résumé de cette deuxième petite partie, quatre chitotes. Quatre chitotes sur la durée de la takana. Donc on a dit quatre chitotes sur la raison de la takana, maintenant quatre chitotes sur la durée de la takana. On a cité, qu'est-ce qui se passe à partir de l'an 1240? Certains disent, moutard, première chita. Deuxième chita, assour en tant que minhag, pas en tant que takana. Troisième chita, assour à cause du kherem de Rabbeinu Gershom, ce qui dit le Yamshel Shlomo, le Maharshal, c'est le kherem qui continue. Et quatrième chita, ce qu'on vient de dire, c'est que le kherem lui-même devait se terminer, mais comme les rabbins ont décidé de le prolonger, ça reste un interdit de Rabbeinu Gershom. Troisième petite partie, on va dire petit volet de cette première partie. Le Chomer à Issour, la gravité du Issour. Et là aussi, on a quatre chitotes. Première chita, là je vais un peu rapidement. Première chita, jusqu'à présent je blablatais, là on va aller un peu plus vite. Première chita sur le Chomer, sur la gravité du Issour, le Shoot Avodat Agershoni Siman Nun Gimel, il écrit que celui qui transgresse l'Erem de Rabbeinu Gershom, il transgresse un Issour Minatora. C'est la même situation que dans une Shvoa qui est interdite par la Torah. Celui qui transgresse, il est tenu comme à une Shvoa. Celui qui transgresse, il a transgressé un Issour Minatora. Le Maharik aussi écrit la même chose dans Shoresh Kouf Pei Dalet, et le Mabit dans Chelek Bet Siman Tetzain, que ça a la valeur d'un Issour Minatora. Celui qui se marie avec une seconde femme alors qu'il est marié, il a transgressé un Issour Minatora. Deuxième Shita, le Shuta Rosh. Le Rosh écrit dans Klal Mem Gimel Siman Chet que la Takana de Rabbeinu Gershom, toutes les Takanot de Rabbeinu Gershom sont Kvuot Keilu Nitnu Besinai. Elles sont fixes comme si elles avaient été données au Mont Sinai. Vous allez me dire, c'est comme Minatora, alors c'est comme le précédent. Non, il y a une petite nuance. Ce qui est assour minatora marqué dans la Torah, c'est encore plus ramour que comme si c'est Nitan Bessinaï. Parce que comme si c'est Nitan Bessinaï, ça peut être comme une halakha le Moshe Missinaï, dans laquelle certains acharonim considèrent que lorsqu'on dit Sfeka de Oraita le Khumra, par exemple, c'est quand on a un doute sur une halakha. Si c'est un sujet minatora, on a un doute. Est-ce que je suis dans la situation interdite ou pas? On dit Sfeka de Oraita le Khumra. Un doute sur un point de Oraita, on doit suivre la Khumra, la rigueur. Cette halakha s'applique-t-elle quand on a un doute sur une halakha dont la source n'est pas le Sefer Torah, mais une halakha le Moshe Missinaï? Beaucoup pensent que oui, certains pensent que non. Ça fait déjà une afkamina. Troisième shita, le Noda Biyuda, le Rav Yecheskel Lando, Noda Biyuda, dans Yoredea Siman Kuf Mem Vav, du deuxième tome, il écrit que le Kherem de Rabbeinu Gershom est à considérer comme une takana des Chachamim du Chas, ou bien qu'est divrei Kabbalah, ça veut dire qu'il lui donne la valeur d'une Xéra des rabbins dans le Talmud. Le Radbaz aussi écrit la même chose dans Siman 1165, que ça a la valeur d'une Xéra des Chachmé à Talmud. Le Mahari Mins dans Siman Yud, le Divrei Chaim dans Chelek Bet Even Ezer Siman Yud Dalet, tout cela pense que ça a un statut midrabanan, c'est l'opinion majoritaire. Majoritairement, les rabbins considèrent que c'est assour. La nature du issour, c'est un issour des rabbanan. Xéra de rabbanan, comme c'était marqué dans la Gemara. Ça, c'était la troisième Shita. Quatrième Shita, le Shoot du Mahari, le responsable du Mahari Siman Kuf Aleph, il écrit que le Kherem de Rabbeinu Gershom est moins grave qu'un Issour de Rabbanan. C'est encore moins. C'est osé de dire ça. Il explique, puisque de toute façon, la raison de la takana, c'est quoi? C'est pour éviter les disputes.
Bon, bah ok, voilà, big deal, c'est pas la fin du monde.
Le Darke Moshe du Rama écrit la même chose. Ebenezer Simana Lassif Kataniyut, que c'est aussi à considérer de manière moins grave encore qu'un Issour de Rabbanan. Et on a déjà vu l'opinion du Yahabetz et du Gon de Vilna qui vraisemblablement ont considéré que c'était pas vraiment un super Issour puisqu'ils souhaitaient l'annuler. Résumé de cette troisième petite partie, quatre chitotes encore une fois sur la gravité du Issour. Un qui dit Deoraita, un qui dit Sinai, comme Sintan de Sinai. Ensuite, Drabanan, quatrième étape, encore moins que Drabanan. Quatrième et dernière partie du volet halakhique, les Sfaradim. Qu'est-ce qu'on fait avec les Sfaradim? Là aussi, quatre chitotes. Première chita, le Rajba écrit dans le Tshuvot HaRajba, c'est la Gimel Siman Taf Mem Vav. Le Rajba écrit, c'est ramené dans le Beit Yosef, que la Takana ne s'est pas répandue en Espagne, ni en Provence, dans le sud de la France. Pas de Takana, Mouta, point final. C'est comme ça que c'est écrit dans le Rajba. Et il précise que les Talmidé Chachamim en Espagne se mariaient avec deux femmes. Pas de problème, c'est Mouta. C'est marqué la même chose dans le Shoot du Ran. Le Ran dans Siman Memchet, il écrit qu'en Castille, on a l'habitude de pratiquer la polygamie, personne n'y trouve à redire, et il n'y a aucun problème. Le Maharam al-Ashkar aussi à la fin de Siman Tzadik et mentionne ça, le Maharal Bach, Rabbi Levi ben Chaviv, dans Siman Lamedvav, beaucoup d'autres. Rabbi Shmuel de Modène, dans le Maharaj Dam, Yuredea Siman Kouf même, énormément d'autres sfarim. Il y a même un Sefer Moussar, qui n'est pas vraiment un Sefer de Halakha, duquel on peut le déduire, c'est Sefer Ayashar. Il y a plusieurs sfarim qui s'appellent Sefer Ayashar. Et ce Sefer Ayashar-là, tout le monde pensait que ça a été écrit par Rabbeinu Tam, mais c'est pas ça qu'il a écrit Rabbeinu Tam. Aujourd'hui, on sait que c'est Rabbeinu Zerachia qui l'a écrit, un autre rabbin. Une des preuves qu'on pourrait amener refuser d'attribuer ce livre à Rabbeinu Tam, c'est précisément ce qui est écrit vers la fin du livre, duquel on voit clairement que là où il habitait, les juifs pratiquaient la polygamie. C'était pas un Issour, c'était Mouta. Or, si c'était Rabbeinu Tam, Rabbeinu Tam était en France, et en France à son époque, c'était Assour sans aucun doute. Du responsable du Roche, on voit aussi qu'en Espagne, Rabbeinu Gershom n'était pas à la mode. Du responsable du Roche, donc là, le même Gimel Siman Chet, il ressort clairement qu'en Espagne, il ne connaissait même pas Rabbeinu Gershom. Ils n'avaient pas entendu parler, ils ne savaient pas qui c'est. Il écrit le Roche, Chacham echad haya be'artzenu vayashmo Rabbeinu Gershom. Il y avait un rabbin dans notre pays, parce qu'il faut savoir que le Roche, c'était un rabbin allemand, c'était un rabbin allemand, et il a fui l'Allemagne, il est parti, il s'est installé en Espagne. Vous savez, son maître, c'était le Maharam de Rothenburg. Quand le Maharam de Rothenburg s'est fait attraper, il y avait un espèce de petit duc local qui voulait se faire des sous, il attrape un rabbin, hop, il le met en prison, il demande une rançon. Seulement, il a vu gros, il a visé trop, il a demandé une très grande rançon. Maharam de Rothenburg, il a dit, Assour, je veux pas qu'on me rachète. Laissez-moi, je vais en prison et c'est tout. Je veux pas qu'on me rachète, c'est beaucoup trop cher. Ça va ruiner tous les juifs, ça va pas la tête ou quoi. Après, il va en déduire qu'il peut recommencer le même coup, et sinon finir plus, il va attraper tous les rabbins. Donc ils l'ont laissé. C'est pas passé si simple que ça, ils ont pas voulu le laisser, mais en final ils l'ont laissé. Et il est mort en prison. Quand il est mort, le Roche, il s'est dit, oulalalalalala, le petit duc, il doit être terriblement vexé d'avoir raté son coup, qu'il a rien réussi à toucher avec ça. Donc il va comprendre déjà que la prochaine fois, il demande moins. Mais la prochaine cible dans le top 50 des raves allemands, c'est moi. Donc une fois que le Maharam n'est plus là, il va m'attraper. Donc il a eu très peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de s'enfuir en pleine nuit sans rien dire à personne. Il a dit au revoir à personne, il a disparu. Il s'est enfui en pleine nuit, il a pris sa petite charrette avec sa femme et ses enfants, il y avait 10 enfants. La charrette était pleine. Et il est parti en pleine nuit, il a pris ce qu'il pouvait en abandonnant le reste. Il voulait rien dire évidemment parce que c'était excessivement dangereux et n'importe quelle fuite aurait pu empêcher sa fuite. Et donc il fallait absolument qu'il parte en silence et il est parti discrètement sans qu'on le remarque. Il a traversé toute la France, il est arrivé en Espagne, arrivé à Barcelone, il rencontre le Rajba, qui était le grand rabbin en Espagne à cette époque-là. Il rencontre le Rajba et là c'est le coup de foudre. Pendant 8 jours, ils ne s'arrêtent plus, ils étudient du matin au soir ensemble, sans s'arrêter. Ils ont dû dormir, je pense, puisque la Gemara dit qu'on ne peut pas rester plus de 3 jours les yeux ouverts, sans fermer au moins un moment les yeux, dormir un petit peu. Mais ils ont étudié du matin au soir pendant 8 jours consécutifs. À la fin, le Rajba était tellement impressionné d'avoir trouvé un rabbin qui fait le poids. Il a pris son téléphone, il a appelé un peu toutes les grandes communautés, savoir où il y aurait besoin d'un, où est-ce qu'il y a un poste de rabbin qui est libre. Et il apprend, je crois que c'est à Tolède, qui avait de la place. Hop, il fait le chidour et c'est parti, eux ils l'acceptent avec joie et le Roche est devenu rabbin de Tolède. Je crois que c'est Tolède, je ne suis pas sûr. Quoi qu'il en soit, donc le Roche en Espagne, écrit dans son responsa, donc dans le shoot du Roche Clal même Gimel Siman Tret, il écrit que dans notre pays, ben c'est nous, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbeinu Gershom, Vetiken Takanot Tovot, il a fait plein de bonnes Takanot sympathiques. Mais je constate que dans ces pays dans lesquels je me trouve actuellement, en les pays espagnols, les gens n'étudient que le Rif, n'étudient pas les écrits de Rabbeinu Gershom, donc personne ne le connaît ici. Donc on voit que non seulement la polygamie était pratiquée, mais la Takana était inconnue. À Jérusalem aussi. À Jérusalem, la Takana ne s'est pas répandue. Les gens avaient l'habitude de se marier avec deux femmes. C'est le Radbaz qui nous le dit. Il est ramené dans le shoot du Ma'ariv Rav à la fin de Siman Samer Aleph, au nom du Radbaz. Qu'à Jérusalem, donc c'est 15e siècle, début 15e, qu'à Jérusalem, les gens se mariaient avec deux femmes. Il n'y a jamais eu de problème. En Italie, on a le Maharik Shuresh Kufal Siman Dalet, qui dit aussi que la Takana ne s'est pas répandue en Italie et que c'est permis en Italie. Néanmoins, il semblerait que par la suite, la Takana se soit quand même répandue en Italie. Parce qu'on a un autre texte qui dit l'inverse, mais plus tardif. C'est un écrit de Rabbi Yosef David Zinsheim. Le Rav Zinsheim, c'est le premier grand rabbin de France, qui, sous Napoléon, a présidé le Sanhedrin de Pacotille, hein, le Sanhedrin qui n'a aucune valeur halakhique, créé par Napoléon. Et il leur a demandé de rendre des comptes sur certains points pour savoir si le judaïsme est compatible, parce qu'ils voulaient donner la citoyenneté aux juifs, mais est-ce qu'on peut les accepter chez nous, ces gens-là, est-ce qu'ils sont viables? Donc pour savoir si c'était possible, il fallait éclaircir quelques questions. Il me semble que la première question, c'était: est-ce vrai que d'après le judaïsme, la polygamie est permise? Première question qu'ils posaient. Toute une liste de questions, ils ont imprimé les trucs, les questions ont été éclaircies, établies, enfin, ils ont creusé l'affaire ensemble, plusieurs rabbins, 71 rabbins. Il faut savoir que dans le Sanhedrin, il a pris 71 pour le symbole. Le grand chef, c'était Rav Zinsheim, qui était assurément le plus grand Talmid Chacham du groupe. La majorité était des rabbins orthodoxes, mais il y avait une très bonne partie de rabbins libéraux, réformés, etc. Donc la première question, ces questions datent de 1806 et 1807. La première question, la polygamie, permise ou non? Le Rav Zinsheim écrit que c'est interdit depuis Rabbeinu Gershom. Et donc c'est interdit en France comme en Italie. Vous savez que Napoléon, roi d'Italie, était intéressé aussi à savoir ce qui se passait en Italie. Donc, interdit en France comme en Italie. Donc déjà, de là, on voit que c'est interdit en Italie. Or, le Maharik nous disait, Maharik italien, nous dit que non, non, chez nous, pas de problème. C'est qu'apparemment, entre-temps, durant les siècles qui les séparent, la Takana s'est répandue là-bas aussi. En Égypte aussi. En Égypte, le Maharik, cette fois-ci dans Shoresh Kufzaïn, le Maharik nous dit qu'en Égypte, pas de problème avec la polygamie. Il dit, c'est pour cela que le Rambam ne mentionne pas cet interdit. Le Rambam était en Égypte, pour eux c'était permis, il ne l'a pas mentionné. C'est machma comme ça dans le Ritva aussi, dans Masechet Sivamot Daf Mem Dalet Amud Aleph, que le Rambam ne l'a pas mentionné parce qu'il était en Égypte. Le Rambam aussi, du Rambam lui-même, on aurait éventuellement une source que, voilà, que la polygamie ne s'est pas vraiment, n'a pas été interdite dans le sud de la France déjà et en Espagne. Le Rambam, dans les Igrot, dans ses lettres, dans l'édition de l'Ifsia, l'édition classique Daf Mem Amud Aleph, il écrit que les juifs de Provence, chacun pratiquement est marié avec deux femmes, etc. Donc il dit voilà, chez eux ça se fait. Mais bon, quand il écrit ça là-bas, c'est pour critiquer plutôt. Et bizarrement, il critique les rabbins français aussi. Il dit oui, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent être massifs, le bon Dieu, ça veut dire attraper et comprendre Dieu, qu'à travers des bons plats bien cuisinés. Enfin, ils se payent leur tête, mais pendant plusieurs lignes, ce qui a poussé beaucoup de chercheurs à conclure que cette lettre est falsifiée et qu'elle n'est pas du Rambam, quand bien même aurait-il eu une dent contre les rabbins français, ça se comprend. Malgré tout, il ne l'aurait pas fait comme ça, un peu plus de classe. Probablement cette lettre est falsifiée, donc on ne peut pas en tirer de preuves. Ça, c'est la première chita, on va dire, qui nous dit qu'il y a pas mal de pays où la Takana ne s'est pas répandue. Deuxième chita, le Yahabet. Ça vient quand même d'être dans Sheilat Yahabet, Chelek Bet, Siman Tetva, toujours. Lui, il écrit la Takana ne s'est répandue qu'en Allemagne. Point final. Alors là, c'est vraiment. C'est magnifique de dire ça, mais c'est impossible à encaisser. Il dit que c'est qu'en Allemagne, on sait très bien que c'est faux, qu'en France aussi, sur place, ça s'est répandu tout de suite. Mais bon, lui, il écrit que c'est qu'en Allemagne, j'y peux rien. Troisième chita, le Mahari Mintz, dans Siman Kufiud, il est ramené dans le Rama, que l'interdit concerne tout pays, jusqu'à preuve du contraire. Tant qu'on n'a pas une preuve que la Takana ne s'est jamais répandue dans ce pays-là, alors c'est interdit. Pour permettre, il faut pouvoir prouver qu'il n'y a jamais eu la Takana. C'est marqué la même chose dans le Aruch HaShulchan, Ebenezer Siman Aleph Sifrov Gimel, que la Takana s'est répandue dans la majeure partie des Galuyot d'Israël, des pays d'exil d'Israël, et que dans le doute, on dit que la Takana s'est déjà répandue dans ce pays et on ne peut plus faire marche arrière. Quatrième Shita, Prem Palaji. Prem Palaji, c'était un rave, le rave de Izmir en Turquie. de 1837 à 1869, et il écrit dans son Shu'ot Chaim V'Shalom Chelek Bet Siman Tetzaim que les rabbins de Izmir n'ont jamais permis la polygamie, si ce n'est pour des cas exceptionnels. Il ramène un cas où un monsieur, sa femme était devenue aveugle et ça devenait très difficile. On lui a dit, oh, ne la divorce pas, reste avec elle et prends une autre. Mais en principe, il ne permettait jamais. Et on trouve dans le Zdechemet sera Freskiaou Medini, c'est un rabbin incroyable celui-là, même quand on le voit on n'y croit pas, c'est un rabbin qui a écrit une sorte d'encyclopédie gigantesque, qu'aujourd'hui, même avec un ordinateur, je tire mon chapeau à celui qui arrive à écrire la même chose. Et à l'époque, il n'y avait ni ordinateur ni rien du tout, c'est phénoménal tout ce qu'il ramène. On ne peut pas dire qu'il est des plus futés, c'est pas un rabbin aiguisé, c'est pas un grand lamdan, mais il est d'une bekiyout phénoménale. Il ramène vraiment une tonne de choses, de livres qui ont disparu aussi, on n'a que grâce à lui certains éléments. Le Sdeh Remed, dans Ma'arechet Girushin Siman Bet Ot Tet, il écrit que Yeshmakom Leistapek, on peut douter si la Takana de Rabbeinu Gershom s'est répandue à Izmir ou non. Ça a l'air de contredire un peu ce qu'on vient de dire. Et le Knesset Agdola, Haim Ben Benisti, lui-même, dans Shut Ba'echaye, dans son responsable Ba'echaye, il écrit clairement que la Takana s'est répandue à Takana Nit Pashta Be'irenu. Il écrit la Takana s'est répandue dans notre ville. Notre ville, c'est quoi? Le Haim Ben Benisti, c'est le rabbin de Izmir jusqu'en 1673. Donc en fait, d'après lui, à Izmir, il y avait déjà la Takana bien avant. Le Rikrelev, dans Yoredea Chelek Gimel Siman Pezain, lui aussi, il était de Izmir. C'était le grand-père maternel de Haim Palaji. Rikrelev écrit que soit il y a certains endroits où la Takana ne s'est pas répandue, mais malgré tout, les gens, les juifs, ont pris d'eux-mêmes la coutume, l'habitude de se l'interdire et de s'astreindre à cette Takana. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas répandue, mais ils l'ont importée, grosso modo, et donc maintenant c'est interdit. D'ailleurs, c'est comme ça que le Shulchan Aruch conseille de faire. Shulchan Aruch lui-même, dans Eben Ezer Siman Aleph, Sif Yud Aleph, dit qu'il convient de s'interdire ce issur de polygamie. Le Be'er Agola, là-bas sur place, dans le Shulchan Aruch, dans la marge, il y a le Be'er Agola qui ramène les sources. D'où est-ce que le Shulchan Aruch nous pond cela? D'où est-ce qu'il sait ça, Shulchan Aruch? Alors il se demande d'où est-ce qu'il nous sort que c'est bien de s'y astreindre. Pourquoi? Pourquoi il dit ça? Et il ramène la source. Il dit la source, c'est le responsable du Roche, donc là, le même Gimel Siman Zayin. J'ai été voir là-bas, et c'est pas vrai. Merkilat Kevodo, Zelonachon. J'ai été voir là-bas. Ce dont parle là-bas le Roche, ce n'est pas du tout, enfin, pas du tout, mais c'est pas vraiment ce que veut dire le Be'er Agola, qui serait une source pour le Shulchan Aruch, qu'il convient d'interdire la polygamie, même là où elle n'est pas interdite. Là-bas, il parle de quelqu'un qui se marierait avec une seconde femme dans un autre pays, ou dans une autre ville. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est déjà une autre paracha. C'est la Gemara dans Yoma d'Afutret. Il y a un problème, c'est que même si on permet la polygamie, si un monsieur se marie avec une madame ici et une autre madame à l'autre bout du monde, alors on craint qu'il va avoir ici un fils et là-bas une fille, et dans 20 ans ils vont se rencontrer et se marier ensemble sans savoir qu'ils sont demi-frères, frères par leur père. Et ça c'est grave. Donc pour éviter ça, les rabbins ont interdit d'avoir une femme dans chaque pays. Faut pas exagérer. Même se marier avec deux, mais deux sur place qui se connaissent. Donc ça n'a rien à voir avec ce que le Be'er Agola veut dire. Le Aruch HaShulchan, dans Siman Aleph de Eben Ezer, Sif Rav Gimel, écrit que la Takana Lonit Pashta Be'eretz Tugar, à ma connaissance ça veut dire la Turquie, ou Be'Afrika et en Afrique. Mais malgré tout, dit le Aruch HaShulchan, la grande majorité des Juifs en Turquie et en Afrique ont pris sur eux la Takana d'eux-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, en fait, d'après lui, c'est interdit pratiquement pour tout le monde. Résumé bref, qu'est-ce qui s'est passé dans cette petite partie? On a une chita qui dit qu'il y a plusieurs pays, enfin plusieurs chitotes qui pensent que dans plusieurs pays il n'y a pas la Takana. Deuxième, le Yahabetz, la Takana n'est que en Allemagne. Troisième chita, la Takana concerne tous les pays jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas la preuve. Et quatrième chita, même dans les pays où on sait que la Takana ne s'est pas répandue, il est encore possible que les gens l'aient pris sur eux-mêmes, d'eux-mêmes, et donc en fait, ben, c'est toujours interdit et c'est tout. Alors dans le Shulchan Aruch, Eben Ezer, Siman Aleph Sifyud, il tranche que Rabbeinu Gershom Hecherim à la Nosea Lishto. Rabbeinu Gershom a excommunié une personne qui se marierait avec une seconde femme. Alors il précise que dans une Yevama lo Hecherim, si jamais c'est un cas de Yiboum, alors là, il n'a pas interdit, etc., parce qu'il y a la mitzvah. Et il ajoute, Velo Pashta Takanato Bechola Aratzot. C'est comme ça qu'il retient. La Takana ne s'est pas répandue dans tous les pays, donc il ne retient pas les opinions qui disent qu'en principe, il y a partout, etc. Ce qui n'est pas le cas du Rama. Velo et Kherim, Ela, Atsof, Elef, Achamishi. Et le Kherim, c'est que jusque l'an 1240. Mais il l'a déjà dit lui-même dans son responsable, dans le Shu du Beit Yosef, qu'après, c'est quand même interdit, mais pas avec un Kherim. Il n'y a plus le Kherim, il n'y a que l'interdit en tant que Minhag. Alors, le Rav Ovadia Yosef, dans le Shu Yabia Omer, Chelekret, Ebenezer, Siman Bet, lui, il tranche clairement que c'est moutard pour les Sfaradim. et il s'énerve terriblement contre les Batei Dinim israéliens qui interdisent aux Sfaradim la polygamie. Je suis assez étonné parce que, au vu de tout ce qui vient d'être dit, comment on peut dire que c'est moutard pour les Sfaradim? Il faut savoir distinguer dans les Sfaradim, il y a les Sfaradim du Maghreb, c'est une chose. On a vu les Turcs et les Italiens, c'est autre chose. On a vu qu'en Italie et en Turquie, il y avait quand même l'interdit. Le Maghreb, c'est encore autre chose. Et il y a aussi ce qu'on appelle les Khalabim. Khalabim, c'est les Juifs de Alep, ça veut dire grosso modo tous les Syriens, Iraniens, Irakiens, tous ces pays-là, d'où vient Rav Ovadia Yosef. Là-bas, en effet, ils pratiquaient la polygamie. Donc c'est vrai que quelqu'un qui vient d'Iran ou d'Irak, c'est difficile de lui interdire halakhiquement. Sauf s'il habite maintenant dans un pays où c'est interdit. Là, désolé, ça coince. Donc ce qui nous ressort, c'est que pour un Sfarad, d'un de ces rares pays où il n'y a pas eu l'interdit de la polygamie, on va dire un Sfarad d'Iran, il aurait le droit de se marier avec deux femmes dans la mesure où il n'habite pas dans un pays où la takana s'est répandue, puisque comme l'a dit le Yahabet, la takana est en fonction du pays, de l'Hachem, etc. Donc pour être tranquille, avec cet halakha, la seule option, c'est être iranien et ne pas habiter en France. Okay, celui qui habite en France et qui est du Maghreb, il est grillé. Ça, c'est le petit volet à l'Afrique. Après, il faut encore définir qu'est-ce qu'exactement la France. Parce que si on parle de l'interdit de Rabbeinu Gershom, on a dit qu'en Provence, c'était pas évident. Donc le sud de la France, c'est pas évident. Alors je sens déjà les Marseillais se poser des questions. D'autant plus que, vous savez qu'à l'époque de Rabbeinu Gershom, Marseille, c'était pas en France. Donc, mais malgré tout, il y aura toujours le Kherem qui a été après, le Issour encore répété par le Rav Zinsheim. Et ça, c'est il y a à peine 200 ans. Qui là, ça concerne Marseille. Marseille, à la fin du XVIIIe siècle, c'est déjà la France. Par contre, Nice, non. Nice, en 1792, c'était pas en France. Peu de temps après, oui, je sais qu'en 1811, ça l'était. Je sais pas à quelle date. Y a-t-il un niçois parmi nous? Non. Je sais pas à quelle date exactement Nice est rentré dans le territoire français. En 1792.
L'Italie, quoi. L'Italie.
Voilà. Mais le problème, c'est que de toute façon, Napoléon, il avait mainmise. C'est l'empereur de France et le roi d'Italie. Donc de toute façon, les Takanot de Rasenstein touchent l'Italie aussi. Très bien. Maintenant qu'on a passé cette première petite parenthèse, on peut s'attaquer au volet historique. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement avant l'interdit de Rabbeinu Gershom? Alors vous savez tous, Abraham, Yaakov, dans la Torah, on voit qu'Abraham il s'est marié avec deux femmes, Yaakov aussi. Mais il faut quand même souligner qu'Abraham qui s'est marié avec deux femmes, il y a une grande subtilité. C'était pas lui qui voulait, il l'a pas cherché, et c'est sa femme qui le lui a demandé. Deux choses. Un, lui il voulait pas. Deux, c'est sa femme qui a demandé. On peut imaginer que lorsque c'est la femme qui demande, nous, pas que cela remette en question la validité du kherem. À son époque, il n'y avait pas le kherem. Je viens juste dire que s'il y a quelque chose de négatif en soi dans la polygamie, on ne peut pas prouver à partir de Abraham que ce n'est pas négatif, puisque lui ne l'a pas choisi, ne l'a pas voulu. D'autant plus que si c'est sa femme qui lui demande, on imagine que ça allège beaucoup. Pour Yaakov, pareil, c'est suite à une arnaque du beau-père. Lui, il voulait se marier avec Rachel, on lui a filé Léa, etc. Donc c'est un des deux. Et même après Bilha et Zilpa, c'est à la demande de ses épouses. Nulle part on voit quelqu'un qui a voulu se marier avec deux femmes. Si, on voit les rois, David, Shlomo. David, il s'est marié avec 18 femmes. Shlomo, vous savez avec combien? Shlomo était marié avec 1000, enfin 300 femmes avec Tuva Kiddushin et 700 Pilakshim. Il avait 1000 femmes, donc là c'est sûr, on ne peut pas dire qu'il n'était pas polygame, ça ne marche plus. Donc il y a eu quand même des personnes qui étaient polygames. Sur Moshe Rabbeinu lui-même, il y a même une shita qui laisserait entendre que là, maybe, des fois que, etc. Vous savez, c'est marqué Aïcha Akushit Asher Lakar. Dans Parashat Balotra, il nous dit Aïcha Akushit Asher Lakar, la femme noire qui l'a primée. Qui c'est cette femme? De qui on parle? Alors vous savez que les Rachamim embêtés par ça, ils ont fait un drash, ils ont dit Alpidrash, ça veut dire qu'elle était belle, mais le texte, qu'est-ce qu'il dit littéralement? Aïcha Akushit, c'est qui cette dame? Le Eben Ezra dit, en fait, c'est Tzipora, seulement Tzipora était Midianite. Les Midianites sont noirs, c'est comme les Éthiopiens. Ils n'ont pas la physionomie du noir africain, c'est plus européen, mais comme un Éthiopien, mais ils sont noirs de peau. Comme ils sont noirs, alors on a dit Kushite, c'est pareil. On a appelé ça Kushite, c'est vrai que ce n'était pas une Kushite. Kushite, ça veut dire noir africain. Ça, c'est ce qu'il dit le Eben Ezra. Mais le Rashbam là-bas sur place, donc dans Bamidbar, au début de chapitre 12, verset 1, je pense, le Rashbam dit que non, Moshe Rabbeinu était marié avec une autre femme, qui était une princesse Kushite, et donc, d'après ça, il ressortirait qu'il était polygame. Alors le Rashbam précise quand même qu'il était marié avec elle, mais qu'il ne l'a pas touchée, etc., etc., etc. Mais il y a quand même une petite touche de polygamie qui s'insère ici. Ça, c'est pour ceux qu'on rencontre dans la Torah. Qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on rencontre dans le Talmud. Qu'est-ce qui se passe dans le Talmud ? Dans le Talmud, il y a un rabbin qui s'appelle Rav Reuven Margolyes. Rav Reuven Margolyes est un rabbin extraordinairement incroyable. Vu l'heure, on n'aura pas le temps de parler trop de sa vie et son œuvre. Juste, je vous dis que c'est un monsieur qui, tout en étant Baal HaBayit, ça veut dire qu'il a travaillé toute sa vie, il n'a jamais été rabbin, il a étudié la totalité de la Torah et il a écrit des livres de Chidushim époustouflants sur la totalité de la Torah. Ça veut dire sur tous les Midrashim, sur le Shulchan Aruch, sur le Rambam, sur tous les Midrashim, sur le Rambam, sur quoi encore ? Sur le Chass, tout le Bavli, tous les Yerushalmi. Sur quoi il n'a pas écrit ? Il a écrit sur tout le Zohar. Il a écrit et un commentaire, on dit que c'est le meilleur sur le Zohar, il n'y a pas mieux. Sur quoi encore il a écrit ? Sur quoi il n'a pas écrit, je vous demande plutôt. Il a écrit des annotations sur des centaines de sfarim, malheureusement beaucoup se sont perdus parce qu'il a quitté la Pologne, il est venu, il habitait à Lvov, en Galicie, Lemberg. Il a quitté en 1935, il a fait sa alia, et il pensait retourner en Pologne récupérer ses bouquins, ses écrits, et manque de peau, 4 ans plus tard, voilà, 1er septembre 1939, invasion, et c'est fini. Et donc après il n'a pas pu retourner, tout a été brûlé, tout a été perdu. Mais il y a beaucoup de ces sfarim qu'il a réussi à sauver et qu'il a imprimé. On a seulement une cinquantaine de ces sfarim sur à peu près 100 titres écrits, époustouflants. C'est époustouflant ce qu'il a écrit. Et ce monsieur, c'est un monsieur qui a travaillé toute sa vie, pas à l'époque des 35 heures. Bref, je ne veux pas trop rentrer là-dessus, on n'a pas le temps. Rav Reuven Margolyes, il est né en 1890, mort en 1971 à peu près. Ce rabbin écrit que dans son livre Olelot, dans Siman Vav, il écrit que même avant le Kherem de Rabbeinu Gershom, les rabbins du Talmud ne pratiquaient pas la polygamie. Ils étaient contre la polygamie, ils trouvaient ça pas bien, c'est pas joli, ça va pas du tout, c'est pas compatible avec l'esprit de la Torah, et ils ont toujours refusé. Il amène beaucoup de preuves, ces preuves sont presque toutes contestables, néanmoins, j'en ai retenu quelques-unes les plus sympas, du moins selon moi les plus sympas, et je vous cite 4 preuves, 4 de ces preuves. La première, il ramène une Psikta Rabati Midrash, Psikta Rabati Piska Mem Gimel, sur le passouk au début de Sefer Shmuel, qui nous dit, Shvachim de Elkana, vous savez Elkana, le mari de Hana et Pnina, il était polygame, le papa de Samuel le prophète, il y a marqué que c'était un monsieur Ephrati, Ephrati ça veut dire la Shon Hashivut, c'était un monsieur bien, Veloj Tenashim, et il avait 2 femmes. Et le Midrash demande, mais comment tu peux dire qu'il est bien et qu'il avait 2 femmes ? C'est pas compatible, ça va pas ensemble ça. Et le Midrash répond, oui mais c'est parce que comme Hana n'avait pas d'enfant, alors forcément il s'est marié avec une seconde. Qu'est-ce qu'on voit de là, dit Rav Margolyes ? On voit quoi ? Qu'en principe c'est pas compatible. C'est que lui dans son cas, parce qu'il ne veut pas avoir d'enfant, mais en principe, quelqu'un qui est polygame, c'est pas quelqu'un de bien. C'est ce qu'on voit du Midrash. On peut quand même, il y a de quoi gratouiller un peu là-dessus, parce que dans le Yalkut Shimoni sur Shmuel Aleph, Remez Ayin Zayin, et c'est aussi un petit peu plus ou moins la même chose dans le Midrash Shmuel Siman Aleph, il y a des petites différences là-bas, mais essentiellement dans le Yalkut ramène 2 opinions là-dessus. Il ramène une marloquet, est-ce que c'était bien ou est-ce que c'était pas bien ? Donc on pourrait dire que c'est marloqueteux. Néanmoins, pour sauver la preuve de Rav Margolyes, on peut encore dire que même l'opinion qui dit que c'était bien, c'est uniquement parce qu'il n'avait pas d'enfant sans cela. Mais s'il avait pu avoir des enfants avec la première, tout le monde s'accorderait à dire que c'est pas bien. Donc ça serait une première preuve. Deuxième preuve, tout votre samar bet amud bet dans la Gemara, on nous raconte une histoire. Le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, son fils s'est marié avec la fille de Rabbi Yossi Ben Zimra. Vous savez, les rabbins, ils se marient toujours entre eux. Et juste après le mariage, il dit, voilà, maintenant on est mariés, super. Bon, ils sont restés un mois ensemble, ou je ne sais pas combien de temps, peut-être un an. Et il part étudier pendant 12 ans, 12 ans consécutifs sans rentrer à la maison. Quand il revient après, elle est stérile. Pas d'enfant, ça ne marche pas. Et bon, c'est selon Yahin Gemara dans Eva Mod, d'Aflamet Dalet Amoudbet, qui considère qu'une femme qui reste sans son mari 10 ans devient stérile, peu importe, en tout cas, il revient, elle est stérile. Et là, Rabbi Yehuda, donc le fils dit à son père, Rabbi, qu'est-ce qu'on fait ? Et Rabbi réfléchit comme suit. La Gemara présente la réflexion de Rabbi Yehuda Hanassi, qui se dit, s'il la divorce, les gens vont dire, ah la pauvre, elle a attendu 12 ans, il revient, il la divorce, c'est pas sympa. Donc c'est pas bien. S'il en prend une deuxième, Yomru zu ishto vezu zonato. Les gens vont dire ça c'est sa femme, ça c'est sa zona, c'est sa prostituée. Comme ça qu'il dit Rabbi. S'il en prend une deuxième, c'est ce que les gens vont dire. Elle dit, il n'y a pas le choix, je vais prier pour qu'elle guérisse. C'est marrant parce qu'apparemment on dirait qu'il économisait les prières. Et il a prié pour qu'elle guérisse et ça a marché, super. Mais qu'est-ce qu'on voit de là ? En dehors que apparemment faut pas trop déranger le bon Dieu, on voit de là que zuishto vezu zonato, c'est que la polygamie était vue d'un très très mauvais œil apparemment. C'est ce que dit Rav Margolyes. Néanmoins, on peut relativiser cette preuve. Pourquoi ? Parce que peut-être c'est uniquement dans la mesure où l'une des deux n'aurait pas d'enfant du tout. Là, les gens vont dire zuishto zuzunato. Genre, il aurait réservé une femme pour le znout et une femme pour avoir des enfants. Parce que cette idée-là existe, il y avait certaines coutumes chez certains goïms qui étaient polygames et qui gardaient une femme pour le tashmish et une femme pour avoir des enfants, pour Péria Verivia. Et le Midrash Rabbah dans Bereshit Rabbah, c'est par Shachav Gimel Siman Gimel, dit sur les gens de l'époque du Maboul, les gens qui sont morts dans le Maboul, dans le déluge, sur le pasuk Veikach lo lemer shtei nashim, que les mères étaient mariées à deux femmes, le Midrash dit Kach ayu anche dor Maboul osin, c'est comme ça que les gens de l'époque du déluge faisaient. Ils prenaient deux femmes, une qu'ils réservaient au tashmish et une pour avoir des enfants. Et donc cette idée-là est négative, et c'est peut-être que pour ça, mais si les deux avaient des enfants, peut-être Rabbi ne se serait pas inquiété, donc ça relativise un peu cette seconde preuve. Troisième preuve de Rav Margoliès, c'est une mashmaout assez costaud dans le Targum sur le Sefer Ruth, chapitre 4, verset 6. C'est mashma là-bas qu'on n'a pas le droit de se marier avec une deuxième femme. Bizarrement, Rav Margoliès qui ramène le Targum, il loupe un mot, et c'est le mot essentiel. C'est bizarre, c'est vraiment il peut être fatigué quand il a écrit, ou bien l'imprimeur, je ne sais pas. Mais cette preuve, il a déjà été devancé par plusieurs dans cette preuve, notamment Rabbi Israël Michal Rabinovitch. C'est un rabbin parisien, enfin un monsieur parisien. Il a écrit un livre qui s'appelle Mevo à Talmud, imprimé à Vilna en 1894, dans lequel déjà il amène cette preuve pour la polygamie, contre la polygamie, dans Sha'ar He, Perek Gimel, page 81. Alors il faut essayer de comprendre pourquoi il ne faut pas, etc. Mais la mashmaout des mots du Targum, c'est que le problème serait pour éviter des disputes. Et à ce compte-là, ça veut dire qu'il y aurait déjà un antécédent depuis l'époque du Targum à cette idée de Rabbeinu Gershom que ça va amener des disputes et qu'il faut éviter. Bon, quatrième preuve, Ktuvot, Daf Ayin Zayin Amud Alef, en bas. La Gemara dit, et ça c'est épatant, la Gemara dit si un monsieur s'est marié avec une femme, il est resté marié pendant 10 ans, et ils n'ont pas eu d'enfants, on l'oblige à divorcer. Tu dois divorcer, tu n'as pas le choix. Parce qu'il y a la misère d'avoir des enfants, désolé. Désolé. On n'avait pas dit qu'il fallait éteindre les portes. La Gemara nous dit, il est resté marié 10 ans, il faut divorcer. Pas le choix, parce qu'il faut avoir des enfants. Et s'il reste marié avec celle-là, on sait que le temps qu'il se marie avec une seconde, il va traîner. Donc tu divorces, comme ça précipite les choses. Et donc on voit, dit Rav Margoliès, qu'apparemment c'était pas envisageable d'être marié à deux femmes. Ça aussi on peut repousser, parce qu'on peut dire non, c'est envisageable. Peut-être certains étaient mariés avec deux femmes, mais c'est sûr qu'ils se marieraient plus vite avec une seconde femme s'ils divorçaient de la première. Donc la preuve n'est pas géniale non plus. Sur ce dîne-là, petite parenthèse, sur ce dîne, c'est quand même assez étrange. On force les gens à divorcer parce qu'ils n'ont pas d'enfants, c'est barbare, c'est brutal, où est-ce qu'on est ici? Vous trouvez cette halakha normale? C'est étrange, non? Je trouve ça assez bizarre, moi. Cette kushia a été posée. Elle a été posée par qui? Par le Avnenezer. Avnenezer, c'est Rabbi Avrom Bornstein. C'est un rabbin qui est né en 1839, mort en 1910. C'était à la fois un rabbi chassidique et un prosek. C'était un lamdan qui a écrit des tchuvot, Shut Avnenezer. Il a écrit sur le chasse, sur un sefer, sur Masechet Shabbat, sur les melachot très connus, Igleital. Tous ceux qui étudient le Chot Shabbat, ils passent par lui. C'est le papa du rabbin qui est un petit peu pas mal à la mode en ce moment chez les Français, le Shem Mishmuel. C'est le père du Shem Mishmuel. Voilà, c'est le Avnenezer. C'était un gaon incroyable, Avnenezer, un très très grand lamdan. Et c'était un rabbi chassidique en parallèle. On croit souvent que c'est contradictoire. On voit qu'apparemment, des fois, il y a du Shahatnes qui se forme. Je ne veux pas dire que c'est Shahatnes, je dis que ce qu'on pense être Shahatnes. Attention, ne vous méprenez pas. Le Avnenezer, il pose la question. À ma connaissance, c'est le premier qui pose cette question. Évidemment, poser la question, dire « Oh, c'est pas joli de forcer ce petit couple à divorcer », ça, c'est pas une question. Quand on pose une question et qu'on s'appelle le Avnenezer, il faut poser la question de manière halakhique, de manière landish. Il faut que ça ait un sens. Il faut avoir des arguments halakhiques, sinon on ne sait plus, on part avec des sentiments, on ne sait plus réfléchir. Le Avnenezer, il demande avec une svara très simple. La loi dans le Talmud, c'est que sur une mitzvah positive, un homme est tenu de donner jusqu'à un cinquième de sa fortune. Pour une mitzvah négative, quelqu'un le dit, mange cette tranche de jambon ou je te tue, il doit manger. Mange cette tranche de jambon ou je te prends tous tes sous, il doit perdre tous ses sous. Il ne peut pas manger. Pour l'argent, on ne fait pas un péché, un lave de la Torah. Par contre, si c'est un essai, un commandement positif, pour faire une mitzvah positive, il doit dépenser. S'il doit dépenser tous ses sous, il n'est pas tenu. La moitié, non plus. Un cinquième seulement, pas plus. Au-delà d'un cinquième, il n'est pas tenu de dépenser. Demande-le à Avnenezer. C'est évident que si on dit à quelqu'un, il n'y a pas eu d'enfant pendant 10 ans, on lui dit, écoute, maintenant t'as le choix, soit tu divorces, soit tu me payes plus d'un cinquième de ta fortune. Tu me donnes la moitié de ta fortune. Il est évident qu'il y a de nombreuses personnes qui seront prêtes à donner la moitié, mais la totalité de leur fortune, pour ne pas divorcer la femme qu'ils aiment. C'est évident. Donc le préjudice causé lorsqu'on le force à divorcer est à estimer bien supérieur à un cinquième de sa fortune. Donc si on ne veut jamais demander plus d'un cinquième de la fortune d'une personne pour sauver un commandement positif, arrête ici, l'enjeu c'est quoi? C'est Piria Veridia, Piria Veridia, c'est une mitzvah positive, c'est tout, il n'y a pas de lave. Donc si jamais il ne se marie pas avec une autre, il va louper la mitzvah positive de Piria Veridia. Donc pour ça, on ne devrait pas lui demander plus d'un cinquième de sa fortune. S'il y avait un moyen de payer pour avoir des enfants, il serait tenu théoriquement de payer qu'un cinquième de sa fortune. Dès lors, comment on peut l'obliger à divorcer? Comment c'est possible? Comment tu obliges quelqu'un à divorcer? Divorcer, c'est beaucoup plus qu'un cinquième de sa fortune. Il est prêt à donner toute sa fortune pour ne pas divorcer s'il le fallait. Pas tous, hein, mais certains. Comment ça se fait? Ça, c'est la question du Avnézer. C'est une question terriblement fracassante. Il y a des réponses chez les Acharonim. Certains veulent dire que établir une distinction entre les mitzvot positives qui s'accomplissent une fois dans la vie et celles qui reviennent périodiquement. Une fois par an, une fois par mois, une fois par je sais pas quoi. Si c'est un truc qui revient chaque année, loulav, ce que je sais, un cinquième, ça suffit, arrête-toi là. Mais une mitzvah qui s'accomplirait qu'une seule fois dans la vie, comme Piria Veridia, soit t'as des enfants, soit t'en as pas, à ce compte-là, peut-être que pour ne pas louper cette mitzvah, alors oui, il faudrait dépenser plus qu'un cinquième. Ça, c'est une tentative de réponse. C'est assez logique, parce que imaginez quelqu'un, un juif qui n'est pas circoncis, par exemple, et les frais de Moël s'élèvent à plus qu'un cinquième de sa fortune. Alors quoi? Il va dire, non, désolé, moi, c'est à 5 euros en trop, alors je ne me fais pas circoncire et c'est tout. Ou bien il n'a pas de tefilin, et tefilin coûte 1000 euros, et lui, il a dans son compte en banque que 3000 euros. Alors quoi, il ne va pas acheter de tefilin, il ne va jamais mettre toute sa vie. Il ne mettra pas les tefilin toute sa vie, parce que, désolé, j'ai pas. C'est bizarre, parce que les mitzvot qu'il suffit de faire une fois, il achète une fois des tefilin et ça reste, il se fait circoncire une fois et ça reste. Ce genre de mitzvot, l'Ikhura, on pourrait imaginer, c'est ce que propose les Acharonim, de penser que là, on peut dépasser le cinquième de sa fortune. Alors, il y a beaucoup à réfléchir là-dessus. Je ne peux pas rentrer là-dedans maintenant, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Je soulignerai que Dafka, la mitzvah de Piria Veridia, est particulière parce que, encore plus que les tefilin et que la mila, parce qu'on sait que pour Piria Veridia, on permet de sortir des lettres d'Israël, vous savez, pour se marier, ou bien pour étudier la Torah. Se marier, ça veut dire pour accomplir Piria Veridia. On ne permet pas de sortir d'Israël pour acheter des tefilin, par exemple. C'est étrange, je sais, mais laissons ça de côté. En tout cas, c'est mentionné sur Piria Veridia, pas sur le reste. Ou bien encore vendre un Sefer Torah. On ne peut pas vendre un Sefer Torah, si ce n'est, par exemple, pour payer un Veridia. Il y a aussi l'Ilmot Torah pour étudier la Torah, mais bon, les mitzvot, comme ça, on cite payer un Veridia, on ne cite pas les Tfilim. Donc ça serait une raison de dire que particulièrement payer un Veridia, encore plus que les autres mitzvot, il faudrait dépenser plus qu'un cinquième de sa fortune. Mais je pense que c'est un autre problème. Il y a en fait deux autres problèmes. On a ici trois grosses questions qui, à mon avis, toutes se répondent avec une seule réponse. Et c'est une nouvelle réponse, c'est une nouvelle idée. Mes questions, ma première grosse question, c'est comment ça se fait que jusqu'au 19e siècle, personne n'a posé la question du Avnenezer? C'est quand même une question simple. Comment tu forces quelqu'un à divorcer alors que ça représente beaucoup plus qu'un cinquième de ses revenus, de son trésor, de sa fortune? C'est évident comme question. Pourquoi personne parmi tous les Rishonim, tous les Acharonim, personne n'a été dérangé par ça? Comment c'est possible? Il faut attendre le 19e siècle pour être dérangé avec ça? J'arrive pas à comprendre comment c'est possible que ce soit passé sous silence tout ce temps-là. Deuxième point étrange, c'est aujourd'hui, on n'accomplit pas cette halakha. Aujourd'hui, un couple marié depuis 10 ans qui n'a pas d'enfant, on les force pas à divorcer. S'ils veulent divorcer, ils divorcent, mais on les oblige pas. Comment ça se fait qu'on les oblige pas? Ne croyez pas qu'on les oblige pas parce qu'on n'est pas religieux, etc. Même les rabbins ne le faisaient pas. Il y a plein de rabbins, Rabbi Ruth Margulies lui-même par exemple, qui n'a jamais eu d'enfant, il n'a pas divorcé. Comment ça se fait? Le Chazon Ish, pareil, le Rabbi de Lubavitch, il y a plein qui n'ont pas eu d'enfants. Ils n'ont pas divorcé, ils sont restés mariés avec leur femme, nous, Makara. Pourtant, c'est une halakha, c'est marqué dans Shulchan Aruch, c'est marqué noir sur blanc. Shulchan Aruch, Rabbi Nezer, Siman Kuf Nundalet, c'est indiscutable. Nous, comment ça se fait que même les rabbins, ils n'accomplissent pas cette halakha-là? Ça, c'est la deuxième timia. Et la troisième timia, c'est la question même du Rabbi Nezer. Donc, on a trois interrogations. Premièrement, la question du Rabbi Nezer, comment ça se fait qu'on le force à divorcer? C'est terrible de faire ça. Deuxièmement, comment ça se fait que personne n'a posé la question avant lui? Et troisièmement, comment ça se fait qu'aujourd'hui on n'accomplit plus la mitzvah? Je pense que la réponse aux trois interrogations, c'est un seul point. Le point est le suivant, c'est que, et là c'est un chidouche, et c'est ça qui va amorcer la suite de ce que je veux vous dire. Ça va faire mal, c'est pas grave. Ceux qui sont pas d'accord, on se battra après. Je pense que le lien dans un couple au Moyen-Âge et encore avant était différent que le lien dans un couple entre un mari et sa femme aujourd'hui. C'est-à-dire que si aujourd'hui un mari considère souvent sa femme comme sa moitié, de laquelle il ne peut pas s'imaginer séparé et se sent complété, etc., etc., il y a 1000 ou 2000 ans, c'était pas vraiment comme ça, du moins pas partout. Et certains considéraient leur femme comme une associée. Un associé, on peut en avoir 2 ou 3, c'est pas un problème. Et quand on le perd, bon ben on pleure un coup et c'est fini. Mais pas comme une femme aujourd'hui par rapport à son mari. Et ce lien différent aujourd'hui, c'est ça qui fait que la question s'est posée seulement au XIXe siècle. Jusque-là, les gens considéraient que bon, divorcer c'est pas la joie, mais on peut pas non plus, il faut avoir des enfants, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, etc., etc. Il semblerait que le lien, à l'époque de la Gemara, le lien dans un couple était moins fort que ce qu'il est aujourd'hui, ou du moins que ce qu'on souhaite qu'il soit aujourd'hui. Et par conséquent, le divorce était moins dramatique. C'est ce qui justifie, premièrement, que personne n'a posé la question pendant un long moment. Et deuxièmement, quelles étaient nos questions? Premièrement, pourquoi personne n'a posé la question? Ensuite, comment ça se fait que personne n'accomplit cette mitzvah? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, divorcer reviendrait à un sacrifice terrible que les Chachamim n'ont jamais demandé. Eux, ils ne demandent toujours qu'à mesure de 1/5 de tes revenus, 1/5 de ton trésor. Plus qu'un cinquième de ta fortune, on t'a jamais demandé. Aujourd'hui, divorcer, ça représente plus qu'un cinquième. Donc on ne demande pas aux gens de faire ça. On ne peut pas en demander tant à une personne de divorcer pour accomplir Pléa Deridia. À l'époque de la Gemara, où les gens, bon, ils mariaient, divorcer, c'est embêtant, mais ça va. D'où on voit ça? Ne serait-ce que dans la Gemara qu'on a cité. On a cité une Gemara de Ketuvot Samerbet Amoud Bet avec le fils de Rabbi. Qu'est-ce qu'il s'est dit Rabbi Da'anassi? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Da'anassi? Il a dit... Désolé, mais il faut annoncer d'éteindre le portable. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Da'anassi? Il a dit, si jamais, quand mon fils revient au bout de 12 ans, il la divorce, les gens vont dire, ouais, bon, il l'a fait attendre, après il la divorce, c'est pas joli, hein. C'est ça le problème. Pourquoi tu dis pas, comment il va la divorcer, c'est la femme de sa vie, aïe aïe aïe, tatati, tatata. Apparemment, ça va. Et c'est d'ailleurs aussi ce qui a permis qu'au bout d'un an de mariage, il est parti pour 12 ans, et bon, voilà, quoi, c'est la vie. Le lien était moins fort, était différent. Dans la mesure où il était différent, on pouvait demander à quelqu'un de divorcer pour accomplir la mitzvah de Pléa Deridia. Mais aujourd'hui, c'est pas possible. Aujourd'hui, ça représente beaucoup plus. Preuve en est, le Chazon Ish. Le Chazon Ish, il a voulu divorcer quand il a vu au bout de 10 ans qu'il n'arrivait pas à avoir d'enfant. Il s'est dit quand même, je suis un rabbin et tout, ça se fait pas. Il a dit à sa femme, il lui a expliqué calmement, tu sais, on va devoir aller au Beit Din parce que la halakha dit au bout de 10 ans, il faut divorcer et c'est comme ça, je suis navré. Sa femme elle a dit, ok, pas de problème, on y va, on va divorcer, juste je te préviens que sur le chemin du retour, quand on revient du Beit Din, là on passe sur le pont au-dessus de la rivière, moi je me jette. Je me suicide. Ah bon? Je savais pas, et hop, il était tout content. Et il a dit, bon bah si c'est comme ça, on va reconsidérer la chose, et puis finalement il a laissé tomber, il est resté marié avec elle. Et il a pas divorcé. Pourquoi? Pourquoi il a qu'à dire, attends, assis-moi, si tu fais Shabbat, je me suicide, si tu manges cachère, je me suicide. Non, ça marche pas ces choses-là. Mais ici, on ne peut pas demander à une personne, on ne peut pas faire mal à une personne à ce point, sous prétexte de mitzvah, spiria, verivia. Aujourd'hui, si on imposait à quelqu'un à divorcer, la différence avec l'époque de la Gemara, c'est que bon, il a divorcé, bon, il pleure un coup et c'est fini. Aujourd'hui, il va passer toute sa vie, rendez-vous tous les mercredis chez le psy, il va prendre des médocs, il va être dépressif, il va ceci, il va cela, c'est la fin de sa vie. Donc, c'est différent. Et avec ça, on répond aussi à la troisième question qui était la question du Abénézer lui-même. Comment ça se fait qu'on demande plus qu'un cinquième? On ne demandait pas plus qu'un cinquième quand on a dit ça. Donc les trois questions sont répondues avec cette idée-là. Maintenant, il faut faire attention, il n'y a pas ici une évolution de la halakha. Il y a une évolution du contexte qui fait que la halakha qui nous demande de sacrifier jusqu'à un cinquième va s'adapter différemment. Il y a ici une grande subtilité, faites gaffe, il ne s'agit pas de dire après la même chose sur un din. Je parle ici d'une takana, pas d'un din, nuance. Une takana, une xéra des rabbins qui oblige à divorcer, pas un din. Si un din des rabbanan, oui, mais de rabbanan, c'est moussé. Oui, mais là, moussé, franchement, ça me fait beaucoup de peine. Je pense que les rabbins, ils n'avaient pas décrété que ce soit moussé à la télé à cette époque-là, non, 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 etc. Non, ça ne marche pas. Ok ? Je parle ici d'une takana. Ça, c'est en tout cas les quatre preuves qu'on a citées de Rav Ron Margulies. Maintenant, on cite un autre Acharon qui s'appelle Rabbi Yitzchok Ber Levinson. Je ne sais pas s'il faut l'appeler Rav ou pas Rav. C'est un monsieur un petit peu avec les masculines, mais c'était assurément quelqu'un de très branché, surnommé Ribal, né en 1788, mort en 1860. Il a écrit de très nombreux livres pour défendre le judaïsme des attaques des chrétiens, des karaïtes, de tout ce que vous voulez. Il a tapé sur tout le monde pour défendre le judaïsme rabbinique. Il est allé même à taper contre les chassidim pour défendre le judaïsme rabbinique. Il a écrit le Beit Yehuda, le Zerubbabel, beaucoup de sfarim qui sont là pour défendre des attaques contre le Talmud, contre la Torah, Or les Arba'a Asar, un livre qui vient expliquer 14 sugyot de Haggadah dans le Talmud choquante. Tahar HaSofer, c'est un livre pour justifier le judaïsme rabbinique contre les Karaïm, Achria Shiloni, Efes Damim contre les accusations de meurtre rituel. Enfin, c'était un grand défenseur du judaïsme. À ce titre, il mérite déjà qu'on le cite. Lui, il écrit exactement l'inverse de Rav Margulies. C'est dans son Sefer Or l'Arba Asar Siman Bet au début. Il écrit exactement l'inverse et il dit que, comme chacun sait, les Chachamim du Talmud étaient polygames. Et donc, etc., etc., etc. Mais il ramène pas de preuves à ça. Alors, comme il n'en ramène pas, je me suis proposé de lui amener des preuves et je vous amène 4 preuves pour le Rav Levinson. Première preuve, la Gemara dans Psachim, Kouflet Gimel Amud Aleph. C'est marqué dans la Gemara que Rav donnait conseil à Ravasi, ne te marie pas avec 2 femmes, parce qu'elles pourraient se révolter contre toi et t'embêter, faire un complot. Et si tu te maries avec 2, alors prends-en une 3e. Donc déjà de là, parce qu'elle va désamorcer le truc. Parce que donc déjà de là, on voit quoi ? Que Rav et Ravasi, qui étaient des rabbins, ça ne les gênait pas d'être polygames, mariés avec 3 femmes, pas de problème. Ça, c'est apparemment une première preuve. Étonnant d'ailleurs ce qu'écrit le Aruch HaShulchan, qu'on n'a trouvé aucun rabbin du Talmud polygame, etc., etc. Il ramène une preuve du Midrash, que Rabbi Yossi, avant de se marier avec une seconde femme, il a tenu à divorcer de la première. Bon, ça tient pas trop la route, et même sur Rabbi Yossi, c'est pas une preuve, puisque le Midrash dit clairement là-bas qu'il voulait divorcer sa femme depuis longtemps, sa femme était méchante, Rabbi Yossi, elle lui cassait les pieds. Et ses élèves lui ont dit 1000 fois, mais Rabbi, divorce, pourquoi tu divorces pas? Et un jour, il a avoué, il a dit à ses élèves, je divorce pas parce que là, tout va être très élevé, j'ai pas les moyens. Il était pauvre. Alors, un élève lui dit, il fallait le dire avant, hop, il a fait un chèque, voilà, Ktouva, il a divorcé. Donc, on comprend aisément que s'il n'avait pas de quoi payer la Ktouva, il ne pouvait pas subvenir aux besoins de 2 épouses. Donc, c'est normal qu'il s'est pas marié avec une autre. Donc, je laisse ça de côté. Deuxième preuve, on trouve certains Chachamim du Chas qui vraisemblablement étaient mariés à 2 femmes, étaient polygames. Désolé pour la Aruch HaShulchan, notamment Rav Papa. Rav Papa était marié avec Bat Abba Sora'a, la fille de Abba Sora'a, qui était une dame riche, dans Ktuvot Daflamet Tet Amoudbet et dans Sanhedrin Dafut Dalet Amoudbet. Et on a une autre Gemara dans Ktuvot Nunbet Amoudbet en bas, qui nous dit que le fils de Rav Papa s'est marié avec une autre fille de Abba Sora'a. Alors si le fils de Rav Papa, c'est aussi le fils de la seule et unique femme de Rav Papa, ça veut dire qu'il s'est marié avec la sœur de sa mère, et ça c'est interdit. Donc apparemment, il y avait 2 femmes. Alors je sais, on peut dire non, il a eu une première femme, et après elle est morte, il a eu un enfant, et elle est morte, et après il s'est marié avec la fille de Abba Sora'a, je sais, on peut le dire, mais la pachroute des sugyot n'indique pas cela, mais au contraire qu'il était polygame. Troisième preuve, la Gemara dans Yoma, d'Afutret Amoudbet, et dans Yevamot, la Medzayn Amoudbet, qui nous raconte quelque chose de très étrange, mais alors là, très 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 étrange. Et on nous dit là-bas que Rav et Rav Nachman, quand ils arrivaient dans une certaine ville, quand Rav Nachman arrivait dans la ville qui s'appelle Sheikh Antiv, en Babel, ils proclamaient « Man Havia Leyoma » « Qui veut se marier avec moi pour un jour ?» Pour un jour, certains disent, non, ça veut dire pour un certain temps, le temps de son passage sur place. Qu'est-ce que c'est que cette histoire farfelue ? Alors, certains dans la Gemara même là-bas pensent que c'était uniquement pour avoir pas de Bessalo, pour être marié officiellement, mais il ne les touchait même pas. Il y avait un problème de dame primou, de toute façon elle était nida, tatati tatata. Juste pour être mariés officiellement, ils avaient un certain intérêt à dire je suis marié, j'ai une femme ici, peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'ils n'étaient pas trop dérangés par la polygamie. Alors, c'est vrai que d'après cet avis, ils n'ont même pas touché leur femme. On trouve à ce compte-là encore beaucoup mieux. C'est que dans le Yerushalmi de Yevamot, avec Dalet al-Achabet, on voit sur Abitaphon qu'il s'est marié avec 300 femmes. On sait que 300, c'est toujours un chiffre de Guzma. C'est une exagération dans le Talmud, comme le souligne le Rashbam et tous les Rishonim. Ça veut dire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes. Il s'est marié lors de Shnat Re'avon, pendant des années de famine. Parce que Rabbi Tarfon était Cohen, et en étant marié à lui, ces dames pourraient manger de la terouma. Il leur est interdit si elles ne sont pas mariées à un Cohen. Donc il ne les touchait même pas, juste ils se mariaient pour qu'elles puissent manger la terouma. Donc ce n'est pas une super preuve, on va dire, pour la polygamie, mais c'est déjà ça. Alors, cette Gemara qui, ou des rabbins qui viennent proclamer qui veut se marier avec moi pour un jour, évidemment, c'est choquant, je vous le concède. Il y a une tonne d'explications là-dessus, vraiment une tonne. Certains sont allés même jusqu'à, il y a un rabbin qui s'appelle Abraham Bloch, qui a écrit un livre qui s'appelle Dama Shetajiv. Il est allé très très loin concernant cette Gemara. C'est un livre où il ramène 14 des 26 réponses qu'il a répondues au pape. Il appelle ça Tshuvati la Vatican, ma réponse au Vatican. Le pape avait demandé, Pie XI, il s'agit de Pie XI. Il a demandé, le pape a demandé pendant l'été 1934, a demandé autour de lui si quelqu'un savait, il a consulté le cardinal machin et Didier, si quelqu'un connaissait un rabbin qui a les idées claires en tête et qui est prêt à dire la vérité coûte que coûte, parce qu'il aimerait éclaircir quelques points concernant le Talmud et le judaïsme. C'était suite à la montée des nazis, on était en 34, donc depuis les 33, les nazis étaient là, ils avaient réimprimé les livres de Erich Bischoff ou de tous les antisémites de service, qui diffamaient toutes sortes d'idioties sur le Talmud, ils disaient que ceci, cela, etc., en tordant les textes. Donc le pape se posait quand même des questions, il voulait savoir la vérité, il savait qu'il s'était débarrassé des nazis, il voulait savoir qu'est-ce qu'un rabbin répondrait à tout ça. Et il est tombé sur le cardinal de Vienne qui lui dit « Moi, j'ai un type en or, il s'appelle Chaim Bloch, lui, je te dis, il dira toujours la vérité, aucun doute. » Alors, dans ce livre-là, Siman Dalet, page 26, il parle de cette question. On lui pose cette question. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait des rabbins qui annonçaient qu'ils veulent se marier avec moi, etc. Alors, il ramène toutes sortes d'explications, interprétations, et dit « Mais moi, je vous dis ce qui me semble la vérité, c'est qu'en fait, ce passage est un passage falsifié et ajouté. » Pas ajouté dans le Talmud, parce qu'il est dans tous les Talmuds. Il ramène des preuves que cette ville, Shachantziv, on voit dans Maseret Psachim d'Afrofit Bet Amoudbet, que c'est une ville de Letzanim. C'était des comment on dit un Letz en français, des mariolos, des, comment dire ça, des moqueurs, enfin voilà, bon, des railleurs, des clowns, des gens qui disent n'importe quoi. Et il écrit, je n'ai pas l'ombre d'un doute que ce qui s'est passé historiquement, c'est que quelques marioles de Shachantziv disaient, oui, quand Rav Nachman il vient chez nous, il annonce Manervia et Yoma, ah ah, c'est rigolo. Et malheureusement, dit-il, comme eux, ils ont répondu ça de manière très sérieuse, des gens y ont cru, c'est arrivé, ça s'est transmis de génération en génération jusqu'aux personnes qui ont mis le Talmud par écrit, et ils l'ont consigné dans le Talmud tout en étant choqués, mais ils n'allaient pas l'effacer parce qu'ils ne le comprenaient pas, et donc ils l'auraient consigné. Alors, c'est très bizarre de dire ça, parce qu'à ce compte-là, on peut aller très loin. Évidemment, beaucoup de rabbins se sont opposés à cette idée-là, hein, ils sont contre ça, sinon le chat c'est Kechoma pour ça, on s'en sort plus, on peut dire oui, non, quand il y a marqué qu'il faut faire Shabbat, non, c'est une blague, il y avait un mariole qui a dit à New York que, etc. On s'en sort plus si on dit ça, donc c'est pas possible. Le Rav David Zinsheim, dans un autre de ses livres, qui s'appelle le Kuntras Shiv'a Hakirot, Kuntras des 7 recherches, dans Hakira, dans les Shiv'a Hakirot, c'est page Kufyud Aleph, il dit c'est impossible de dire un truc pareil, sans s'intéresser à lui puisqu'il l'a précédé, mais il refuse ces idées-là. Quatrième preuve et dernière preuve qu'on peut amener pour la polygamie à l'époque des Chazal, ce qui est marqué dans les Yichusei Tanaïm Vamorei. C'est un livre écrit par un Rishon qui s'appelait Rabbi Yehuda Bar Klonimus, c'était un tosafiste allemand. Sous l'entrée Bar Kappara, il écrit qu'il est marqué dans le Midrash que Bar Kappara, qui est un rabbin du Talmud de l'époque de Rabbi Danassi, était marié à 12 femmes. Il était marié à 12 femmes et chacune des femmes a pris sur elle d'assurer la parnassa, tellement il était chacham, on se marie avec toi et on t'organise la parnassa, toi tu ne travailles pas. C'est ce qui est marqué dans ce livre d'un Rishon au nom d'un texte agadique, on ne sait pas lequel, on regarde toutes les Gemarot, on ne trouve pas ce texte. Pire que ça, dans les annotations de Rabbi Daleb Maimon Fishman, qui était un très 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 grand baki, connaissait vraiment beaucoup de livres, il avait accès à énormément de midrashim perdus, il a dit j'ai cherché partout, nulle part c'est marqué. Alors il y a des midrashim des fois qui se perdent, mais ça il dit j'ai trouvé nulle part. Vient Rabbi Margulies, le fameux qu'on avait vu tout à l'heure, dans le même Sefer, dans Olelot, mais un peu plus haut, dans Siman He, et il dit moi j'ai une proposition, d'où ça vient cette histoire là, où est-ce qu'on a vu Mapitom Bar Kappara, comment il aurait inventé que Bar Kappara était marié à 12 femmes et qu'elle lui assurait la parnassa. Dit Yeng Mara dans le Chas Yerushalmi, Yevamot Perek Dalet Alacha Yudbet, où on nous raconte une histoire. Il y avait un monsieur, 13 frères, 12 étaient mariés, sans enfants. Les 12 sont morts, probablement de tristesse de ne pas avoir d'enfants. Les 12 sont morts. Résultat, le 13e, il écope de 12 Yevamot, de faire Yiboum de 12 belles-sœurs. Alors lui, évidemment, il s'enfuit. Et c'est marqué qu'il est allé voir Rabbi Yehuda Hanassi et il lui dit non, ça va pas ou quoi, il y en aura d'autres. Et manque de peau, c'est le seul frère survivant, il n'y a pas de choix. Alors il y a la Khalitza toujours. Lui il dit à Rabbi Yehuda Hanassi, on ne nous dit pas qui c'est, hein, son identité est soigneusement cachée, apparemment c'est la vie privée. Et il dit, moi je suis plutôt pour la Khalitza que pour le Yiboum, j'aime pas Yiboum, je préfère Khalitza. Et Rabbi dit, non, c'est bien, fais Yiboum, c'est une bonne chose, fais Yiboum. Il dit, mais Rabbi, moi j'aimerais bien, mais t'imagines, 12 femmes, comment je fais pour la Parnassa, je vais jamais tenir, ça coûte super cher. Elle dit, ah oui, c'est embêtant. Et les femmes qui entendent ça, c'est marqué dans le Yerushalmi, les femmes entendent ça, elles disent, tu sais quoi, t'es un tellement grand chacham, nous pour être mariés avec toi, on est prêtes, on est 12, chacune prend en charge un mois, on va travailler toute l'année pour être mefarnes chacune un mois. Chacun s'occupe d'un mois, comme ça t'as la Parnassa tranquille, pas de problème de Parnassa, tu peux plus refuser. Là, il est coincé, il sait plus quoi dire. Rabbi Dassi, il dit alors. Et alors, il réfléchit vite. Heureusement, il a une idée de génie. Il dit hop. Et les années m'ouvrent. Quand il y a l'année embolismique, il y a 2 mois de Hadar, hein, qu'est-ce qu'on fait? Et Rabbi lui répond, ok, c'est pas échec et mat. Rabbi était très riche. Il lui dit, je me charge de toute la fratrie, toute la famille, le paye pour ce mois, une fois tous les 3 ans. Ok, ça marche. Le Yerushalmi raconte, 3 ans plus tard, il y avait une année Mouberet, et ils arrivent, toute une délégation. Ah, j'ai oublié de vous dire, Rabbi Yehuda Hanassi, suite à cela, les bénit, que par le mérite de la mitzvah, qu'ils aient beaucoup d'enfants, que tout aille bien, etc. Bon, 3 ans plus tard, elles arrivent, la Gemara dans le Yerushalmi dit que chacune a eu 3 enfants entre temps. 3 x 12. 36, on a des mathématiciens parmi nous. 36 enfants. Et ils arrivent, en bas, à la fenêtre de Rabbi, on a faim. C'était le mois Mouba. Oh, il va avoir, Rabbi, il demande qu'est-ce qui se passe ici, on lui explique, il dit, ah, ok, pas de problème, il sort le chéquier, paf. Ça fait du monde, hein, parce qu'il y a 36 enfants, c'est qu'ils sont 49 en tout, ça fait quand même quelque chose pour un mois. Et Rabbi, il fait un chèque et tout va bien. On voit que la bénédiction de Rabbi Yehuda Hanassi, ça marche bien, donc on espère que lorsqu'il a béni son fils la dernière fois, donc tu vois que là-bas, ça a bien marché aussi. Voilà, dit Rav Margulies, le Yerushalmi ne dit pas qui est cette personne. On ne nous dit pas qui est ce monsieur. Il dit, mais je vais vous dire qui c'est. C'est très simple. On voit dans la Gemara, dans Yevamot, Daf Kuftet Amud Bet en bas, la Gemara nous dit que Bar Kapara était plus pour la Khalitza que pour le Yiboum. Hop, déjà un point commun. Deuxième étape, on voit dans tout le chas que Bar Kapara fréquentait toujours Rabbi, était à l'époque de Rabbi, il allait voir Rabbi, Yudanassi, et qui le connaissait très bien. Il dit à partir de là, c'est marqué comme ça dans le Rambam aussi, le Rambam dans la Akdama du Mishneh Torah, vous savez, quand il fait la liste des générations de qui a transmis à qui, il met Bar Kapara comme élève à l'époque de Rabbi. Et d'ailleurs, le Rahavad bizarrement fait une saga dessus, je ne sais pas pourquoi le Rahavad ne savait pas ça. Dans tout le chas, on voit que Bar Kapara était à l'époque de Rabbi. Bizarre. Quoi qu'il en soit, il était à l'époque de Rabbi, il était pour la Khalitza et pas pour le Yiboum, et on a un texte qui nous dit qu'il était marié à 12 femmes qui ont décidé, parce qu'il était chacham, de subvenir à la parnassa de la famille. Il n'y a pas de doute, c'est sûr que c'est ça. Et par conséquent, c'est Bar Kapara, selon lui, qui était ce fameux monsieur dans le Talmud. Avec ça, il va expliquer aussi une Gemara dans Brachot d'Afnudva Vamoubet, où on raconte que Bar Kapara a fait un rêve. Il a rêvé que ses bras étaient coupés. À bras raccourcis. Il a rêvé que ses bras étaient coupés, il était embêté, angoissé. Il vient voir Rabbi Danassi, il lui dit Rabbi, j'ai fait un mauvais rêve. Il dit, qu'est-ce que t'as rêvé? J'ai rêvé que j'avais les bras coupés. Il lui dit, mais non, c'est un bon siman. Tu sais, dans les rêves, c'est un bon siman, ça calme les gens. C'est un bon siman. Ça veut dire que l'autre, tu n'auras pas besoin de tes maasé yadaïm, des actions de tes mains pour te nourrir. Et donc, tu seras rentier, tu auras une parnassa sans travailler. Et on voit que la bracha s'est accomplie, dit Rav Margulies, c'est que justement, ces 12 femmes se sont occupées de la parnassa. Ça, en soi, c'est pas une preuve, parce qu'il y avait d'autres sources pour la richesse de Bar Kapara. Il y a un midrash dans Kohelet Rabba, au début de Parsha Yud Alef, le midrash dit qu'une fois Bar Kapara, il se baladait sur des rochers devant la mer de Césarée. Enfin, il y a marqué, il était Mekapel Paslaïm. C'est une marque dans les commentateurs. Ce qui veut dire qu'il se baladait, Mekapel, ça veut dire qu'il creusait. Et certains pensent à partir de là qu'il était tailleur de pierre de son état. En tout cas, c'est marqué qu'il se baladait ou qu'il était sur des rochers. Il voit au loin un bateau qui coule. Et il y a un type qui a réussi à frapper un bout de bois et qui arrive à revenir jusqu'à la rive, épuisé. Il est là sur la plage, il arrive esquinté. Alors, Bar Kapara le prend, l'amène chez lui, le réchauffe, le lave, lui donne des habits, lui donne à manger. Il le nourrit et il lui donne 5 pièces. 5 slaïm. Le monsieur le remercie beaucoup, etc. Et il s'avère que ce monsieur, c'était un ministre. Bon, un peu plus tard, des années après, il y a des juifs qui se font attraper pour je ne sais plus quelle raison. Et ils sont donc sous l'emprise d'un petit duc, d'un petit machin, qui demande une rançon. Et on envoie Bar Kapara, la communauté récolte 500 pièces, on envoie Bar Kapara pour racheter les prisonniers. Il arrive là-bas, sur qui il tombe? Sur le ministre qui était monté en grade, était devenu le petit chef là-bas. Et il le voit, et le ministre, l'ex-ministre, le reconnaît. Il dit, tiens, toi, t'es le juif qui m'a sauvé, etc. Il dit, ouais, c'est moi. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu pour acheter les juifs. Il dit, voilà, j'ai 500 pièces. Boum. Alors, il dit, parce que tu m'as donné à manger, je les libère gratuitement. Parce que tu m'as donné 5 pièces, moi, je t'offre les 500 pièces pour toi. Et c'est comme ça, donc, il est déjà devenu riche avec ça, parce que c'était un gros magot. Alors, chez où ce qui ressort, c'est que d'après ça, d'après l'explication de Rav Margoul, ce qu'on parle de Bar Kappara qui s'est marié avec 12 femmes, c'est plus tellement une preuve non plus, puisqu'il se serait marié dans le cadre d'un Yiboum. Or, on a déjà dit que dans le cadre du Yiboum, c'est autre chose. Alors, en conclusion, après avoir amené quatre raisons pour expliquer le Ta'am de la Takana de Rabbeinu Gershom, on a amené aussi quatre Shitot pour expliquer la durée, pour définir la durée du Kherem de Rabbeinu Gershom. Quatre Shitot sur la gravité du Issour de Rabbeinu Gershom. Quatre Shitot aussi pour savoir qui est concerné par le Kherem de Rabbeinu Gershom. Puis, quatre preuves pour Reuven Margoliès qui ne pratiquait pas la polygamie et quatre preuves inverses. Après tout, c'est quatre, je ne sais pas pourquoi tout est sorti quatre, hein, je n'ai pas fait exprès, c'est sorti comme ça, je suis navré. Peut-être parce que la Gemara, dans Yevamot d'Afundel, la Gemara, elle dit qu'elle conseille que même celui qui est polygame de plafonner à quatre femmes, pas plus que quatre. Et après, c'est fait trop. Plafonne à quatre. Alors peut-être pour ça qu'aussi on va plafonner à quatre. C'est une Gemara dans Yevamot d'Afem. Ah ben voilà, même Dalet. Je vais faire des Gematria, comme ça on ne pourra pas dire que je n'ai pas fait de Gematria. Même Dalet, c'est 44, 4 et 4. Voilà. Et Yevamot, ça finit par un Tav, c'est 400 comme chacun sait. Et le reste, Yevamot, ça fait 58, on va trouver un 4 à 5. Et 8, ça fait 13. 13, c'est 1 et 3, ça fait 4. C'est parfait. Voilà, on a fait de la Gematria. On est Yotse. Alors, il faut quand même comprendre. Comment résoudre cette contradiction apparente? On a une contradiction, on a quatre preuves que les rabbins étaient polygames, quatre preuves que les rabbins du Talmud ne l'étaient pas. Alors c'est quoi cette histoire? Et là, je vous présente un ridouche personnel. Je ne vous demande pas juste de pas me taper, c'est tout. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, en tirant aucune conclusion à l'Afrique. C'est une idée Béalma. Si elle vous paraît irrecevable, ne la recevez pas. Je vous la propose, je vous la soumets. Mon idée pour répondre à cette contradiction qui, à ma connaissance, personne jusqu'ici n'a répondu à cette contradiction, j'ai pensé comme ça. J'ai pensé qu'en fait, ce serait une marloquette entre le Bavli et les Roushan. Marloquette entre le Talmud de Babylone et de Jérusalem. Il y a plusieurs fois des marloquettes, des désaccords entre le Chas Bavli, Chas et Roushalmi, et la particularité de ces marloquettes, c'est qu'elles ne sont pas présentées. Quand il y a une marloquette dans la Gemara, on dit Rabbi X dit ceci, Rabbi Y dit cela, on voit qu'ils ne sont pas d'accord. Mais Bavli et Roushalmi, chacun dans son secteur, on ne sait pas ce que l'un disait, ce que l'autre disait forcément. Des fois, on sait, mais pas toujours. Et donc, il y a des marloquettes dissimulées, cachées comme ça, entre les deux Talmudim, et beaucoup de Haronim se délectent de déceler justement ces marloquettes, trouver, ah, paf, ici marloquette, Bavli et Roushalmi. Le Avdenezer qu'on citait tout à l'heure dans Iglétal, il s'éclate avec ça dans les Melachot de Shabbat. Il m'a expliqué que toute la vision des Melachot de Shabbat du Yerushalmi est différente de celle du Bavli. En tout cas, ici, j'ai pensé dire que c'est une marloquette Bavli-Yerushalmi de quelle manière? Parce que quand on analyse les preuves, les quatre preuves d'un côté et les quatre autres de l'autre, on voit qu'il y a Rav qui conseille à Ravassi de se marier avec deux femmes ou trois femmes, etc., et que ça ne dérange pas la polygamie. Or, Rav et Ravassi étaient dans quel pays? En Babel. Rav était en effet né en Israël, mais il l'a quitté étant jeune, comme c'est marqué dans Sanhedrin d'après. Il est allé habiter en Babel, et c'est là-bas qu'il est devenu grand rabbin. Et Ravassi était de Babel. Il est vrai qu'après, âgé, il est parti en Israël, mais tant qu'il est appelé Rav, assis, et pas Rabbi, assis, c'est quand il était encore en Babel. Donc là, ils sont tous les deux en Babel, et il lui conseille de se marier avec trois femmes. Donc apparemment, en Babel, la polygamie, on encaissait, ça passait. Rav Papa, pareil, marié avec deux femmes, il était en Babel. Rav et Rav Nachman, qui proclamaient Manavia Leoma, c'était en Babel, Shachan Sif, des villes en Babel, tout en Babel, des gens babyloniens en Babel. Il n'y a que la preuve de Bar Kappara qui est embêtant. Bar Kappara était en Eretz Israël. Mais on a déjà repoussé en disant que Yiboum, c'est différent. Yiboum, c'est pas vraiment une preuve, c'est différent. Donc apparemment, il faudra s'arranger avec ça. Et d'un autre côté, les quatre preuves pour Avraham Margoliès, les quatre preuves que les rabbins ne pratiquaient pas la polygamie, ce sont des preuves rattachées à Eretz Israël. Comment ça? La preuve du Midrash avec Elkana, etc. Le Midrash, c'est un pirouche de Eretz Israël, la Psikta, comme tous les Midrashim d'ailleurs, et la Psikta de Rav Kahana encore plus. Parce que Rav Kahana, la Psikta Rabbati a été écrite par Rav Kahana, enfin, les gérée par Rav Kahana, et Rav Kahana, comme chacun sait, soit est né en Israël, en Babel, mais a quitté étant jeune, suite à ce qui s'était passé, dans Baba Kama d'Afoufut Zayin, il a dû s'enfuir, et il est parti habiter en Eretz Israël. Et Plus encore, dans ce midrash là-bas, celui qui parle, c'est Rabbi Yehuda Hanassi, Rabbi Hanassi d'Eretz Israël. Donc c'est sûr que c'est un pirouche d'Eretz Israël. L'histoire avec le fils de Rabbi, aussi, c'est en Eretz Israël, Kamouban. Pareil pour le Targoum de Ruth, c'est aussi un Targoum qui vient d'Eretz Israël. Et il reste l'histoire de celui qui se marie avec une femme au bout de 10 ans, il doit divorcer. Ça, comment on s'arrange avec ça? Marié 10 ans, tu dois divorcer. On le force à divorcer. Là, c'est difficile, c'est une halakha, c'est pas une histoire. Alors, quoi, on va dire que c'est qu'en Israël, c'est étrange, c'est difficile. Alors, d'une part, on peut répondre, comme on l'a dit déjà, en repoussant cette preuve, en disant que, pas que la polygamie n'était pas envisageable, mais simplement qu'on se dit qu'une fois divorcé, il se mariera plus vite. Donc déjà, la preuve tombe et tout va bien. À part ça, j'ai vu dans le Meiri, dans ma Masechet Ketuvot, Ayin Zayin Amud Aleph, le Meiri ramène que Yesh Omrim, que ce din, que l'on force à divorcer au bout de 10 ans, c'est uniquement en Eretz Israël. Et toc. Alors, évidemment, quand le Meiri dit ça, lui, son idée, c'est que par rapport à la Kedusha d'Eretz Israël, il faut accomplir Pira Verita, etc. Bien sûr, c'est son idée. Mais malgré tout, on peut encore relier l'histoire avec Eretz Israël et tout s'arrangerait comme ça. Maintenant, le problème, on a répondu à la contradiction apparente en proposant une marquette d'Abi Yerushalmi, mais on reste avec un problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas nier le fait qu'à l'époque des Shoftim, quand on regarde les prophètes, quand on regarde les rois, David, Shlomo qu'on a cité, et dans les Shoftim aussi on trouve, c'est pas que les rois, les Shoftim, Shoftim c'est aussi pas mal, dans ces vers Shoftim, chapitre 8, verset 30, on trouve au sujet de Gidon, Gédéon. C'est marqué où le Gidon, Ayushiv im banim yotse yerecho, il avait 70 fils, 70 enfants, yotse yerecho, pourquoi? Kinashim rabot hayulo, c'est le pasouk, parce qu'il avait beaucoup de femmes. Gidon, le Shofet, avait 70 enfants. Voire 70 garçons, je ne sais pas. 70 enfants en tout cas. Vous imaginez la carte de famille nombreuse, la réduction que ça fait. C'est affolant quand même, 70 enfants, je ne sais pas comment on vit comme ça. Mais bon, voilà. Il y a des cas comme ça. Je ne sais pas, Ramsès II, on lui a répertorié, les égyptologues lui ont répertorié 106 enfants répertoriés. Mais tout le monde sait qu'il y en a eu plus. Ceux qui sont cités, 106 déjà. Comment ?
Ils sont tous morts.
Ils sont tous morts aujourd'hui, ouais, il n'y a pas un seul.
Ils sont fait tuer par.
Oui, oui, ben ils sont morts, en effet, alors.
Ils se sont tués très tôt.
Non, mais c'est pas ça qui m'étonne, c'est qu'il a eu 106 enfants, comment ils vivaient. Voilà, on trouve, chez les rois aussi, David et Shlomo, on peut pas nier qu'ils étaient polygames. On a dit, il y a eu des gens polygames. Impossible de dire que la polygamie, c'est pas soul be'etzem, c'est négatif en soi, avec ces sources-là. C'est pas possible, c'est pas compatible. Qu'est-ce que tu fais de David Ameler, Shlomo Ameler? Donc la question qu'on va se poser, c'est si on considère, comme j'ai voulu le dire, que les sages en Eretz Israël étaient contre la polygamie, et ceux en Bavel, ils la toléraient. Pourquoi en Eretz Israël, ils étaient contre? Et pourquoi Rabbeinu Gershom était contre? Somme toute, on a eu des grands d'Israël qui étaient polygames. Ça, on l'a dit déjà. Et donc, pour comprendre, et si on va dire parce qu'il y avait des disputes, etc., c'est bien beau, mais pourquoi à l'époque des Shoftim, il n'y avait pas de disputes? Alors, certains veulent dire que c'est un problème de niveau, de darga, de kdusha, etc. Et que donc, étant plus kdushim à l'époque des shoftim, ou à l'époque des prophètes, à l'époque des rois, étant plus une ambiance de sainteté, ils n'avaient pas besoin de se restreindre à ce niveau-là pour maintenir leur niveau de kdusha. Sympa, mais j'aime pas trop, parce que à la même époque, on voit qu'il y avait des pour et il y avait des contre. À la même époque, il y a eu les Ashkenaz et les Sfarad. À la même époque, il y avait ceux en Eretz Israël, ceux en Bavel. À la même époque, c'est difficile. Alors quoi, on va dire juste en Bavel, ils étaient grands tzadikis, mais en Israël, l'inverse. C'est pas machma comme ça dans le chasse. Donc ça marche pas très bien, cette histoire-là. Et pire que ça, même parmi ceux qui interdisent, comme il a dit, il y a quand même des gens qui étaient pour. On était en plein pays allemand, on avait le Yahabetz, le Gaon de Vilna, qui eux étaient pour. Donc on ne peut pas dire que c'est pas sous le BSM ou l'inverse. Alors il me semble, pour répondre à ça, qu'en fait, c'est une réponse un peu délicate, qui consiste à dire que la polygamie est ni bien, ni mauvaise, ni mal. C'est ni l'un, ni l'autre. On ne peut pas dire que c'est bien, on ne peut pas dire que c'est mal. Celui qui dit c'est bien en soi se trompe, celui qui dit c'est mal en soi se trompe aussi. Pourquoi? Comment ça marche? Ça marche, ça dépend, encore une fois, ce qu'on a mentionné tout à l'heure par rapport à l'obligation de divorcer, ça dépend du lien qui s'est installé dans le couple. Si quelqu'un a un lien avec sa femme, qui est un lien de c'est ma moitié, qui me complète, etc., c'est inenvisageable d'être polygame. Ça ne marche pas. Si quelqu'un considère sa femme comme un associé, puis bon, j'en prends un, je change, etc., c'est pas grave, etc., Ah oui, on peut l'imaginer. Là, c'est possible, puisqu'un associé peut en avoir plusieurs. Et donc, il semblerait qu'à l'époque des shoftim, où les gens étaient polygames, le lien dans le mariage était plus faible, était différent du moins. Ce qui n'est pas le cas plus tard. En Eretz Israël, à l'époque du Talmud, le lien avait changé apparemment. Pas en Babel, mais en Israël, oui. On voyait le mariage d'une autre manière, ce qui fait que la polygamie, ils n'aimaient pas trop. Ils ne pouvaient pas dire que c'était assourd, c'était moutard, mais ils n'aimaient pas trop ça. C'est pour ça qu'on voit que dans certains pays, ils avaient facilité à divorcer, ils avaient, etc. C'est encore une fois cette idée de lien. Et donc à l'époque des Amoraïm, il y a eu comme ci et il y a eu comme ça. Et donc, en Eretz Israël, ils n'aimaient pas trop cette idée de polygamie. Apparemment, leur lien dans le mariage était différent. Et en Babel, ils encaissaient. C'est intéressant parce que généralement, les coutumes ashkenazes sont basées sur le chasse bavli. Et les coutumes sfarades sont beaucoup plus imprégnées de Yerushalmi à droite à gauche. Beaucoup plus souvent. Et il y aurait donc deux domaines où ce n'est pas le cas. Premier domaine, celui-ci, si ce que je dis est vrai. Toujours avec des pincettes, peut-être. Et donc, que les Ashkenazim qui ont interdit de manière plus systématique la polygamie auraient eu la même mentalité que ceux de Eretz Israël, du Talmud Yerushalmi, à l'inverse de d'habitude, et les Sfaradim avec le Bavli. Deuxième point, c'est faire toute une histoire des Shedim, des démons. Les Sfaradim, ils aiment bien les démons, les Ashkenazim, ils connaissent pas trop. Et dans le Talmud aussi, le Talmud Bavli, il s'éclate avec les démons, il en fout toutes les couleurs, qu'est-ce qu'ils mangent les démons le soir, comment ils se brossent les dents, tous les détails sur les démons, alors que dans l'Yerushalmi, on les snob un peu, il n'y a pas, les démons, on connaît pas, dans l'Yerushalmi, on n'aime pas parler de ça. Donc c'est les deux points qui sont inversés, bizarrement. Et à l'époque des Rishonim, qu'est-ce qui se passe à l'époque des Rishonim? À l'époque des Rishonim, eh ben on a eu de plus en plus de Juifs qui percevaient le mariage différemment, de telle sorte que ça leur était de plus en plus difficile de pratiquer la polygamie. Et dans les pays allemands, forcément avec l'ambiance locale où la polygamie était toujours interdite, sans même pas parler, il n'y avait pas... Donc forcément le mariage était perçu de manière différente, ce qui faisait qu'il était difficile d'être polygame, parce que le lien dans le mariage était différent de ce qu'il y avait dans les pays arabes. Et donc... Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas chez les Sfaradim certains qui avaient un lien plus fort avec leur épouse qui leur empêchait d'être polygames, parce qu'il y a bien eu des gens qui n'ont jamais voulu être polygames, même dans des pays sfarades ou même dans des pays arabes. Et inversement, on a eu le Yahabès en pleine Allemagne qui, malgré l'interdit, lui ne voyait pas le problème et il pensait qu'il fallait être polygame, seulement c'est interdit et on est embêté. C'est très osé de dire ça, mais j'ose quand même, en laissant des pincettes pour affoler personne. Et j'ai trouvé une sorte de smart là-dessus dans le Ritva. Le Ritva dans Yevamot, même dans le Talmud Aleph, il dit un truc qui va un peu dans mon sens, il me semble. Il écrit que le Rambam a permis la polygamie parce qu'il habitait avec les Ishmaélites. Il habitait avec des Arabes. Comme il habitait en pays arabe, et que la polygamie était pratiquée. Donc il n'y voyait pas de problème. Donc on voit que le Ritva fait un lien entre la mentalité ambiante et ce qu'on va pencher à permettre ou à interdire. C'est un raccourci, ça va vite, parce que s'il y a le Kherem, tu peux avoir la mentalité que tu veux, t'es coincé. Mais en Égypte, où il n'y avait pas le Kherem, le Rambam n'aurait pas voulu l'accepter, vraisemblablement c'est ce que dit le Ritva, justement parce qu'il habitait avec les Ishmaélites. On voit la même histoire avec le Yahabet, etc. Donc il n'y a pas de décision, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce qu'il est mieux d'être polygame ou d'être monogame? Il n'y a pas de décision à avoir. Ça dépend du lien qu'on a dans le mariage, et c'est ça qui fera si on doit, si on peut, si on ne peut pas être polygame. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'opposent. Qu'est-ce qui va pas? J'ai pas dit qu'il y a besoin, j'ai dit c'est ça qui a imposé la takana. Ça a amené la takana, et même dans les pays où il n'y avait pas la takana, comme on l'a dit, les gens l'ont pris d'eux-mêmes. À cause de ça. Non, takana c'est nécessaire justement à cause des principes, comme on a dit. Parce qu'il y a toujours des gens qui n'ont pas ce feeling, qui ne sont pas à même d'avoir ce feeling. Et donc c'est pas bien ce qu'ils font. Leur femme se marie honnêtement, et eux ils sont là pour coincer ces gens-là, c'est nécessaire une takana. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui seraient choqués par la polygamie, plein de gens d'esprit européen moderne, comment c'est possible, etc. Mais je ne donne pas cher que ces gens-là eux-mêmes, s'ils vivaient il y a 500 ans, ou il y a 1000 ans, ou il y a 2000 ans dans des pays arabes, ils auraient justifié la polygamie, c'est très bien, c'est très pratique, même des femmes justifiaient à l'époque. Donc, c'est pas une question de c'est bien ou c'est pas bien, c'est une question de mentalité et c'est tout. La Torah qui a été donnée à une époque, et dans un endroit où les gens étaient tous polygames, enfin, personne ne se privait de l'être du moins, elle n'a pas interdit la polygamie. C'est interdit. Tu veux pas. C'est pas interdit. Mais ça veut pas dire qu'il y a une mitzvah d'être polygame dans la Torah. La Torah n'a jamais demandé d'être polygame. Tu veux pas. Tu fais ce que tu veux. Il y a d'autres choses sur lesquelles la Torah n'a rien dit. Et aujourd'hui, on en est choqué. Mais à l'époque, on ne l'aurait pas été. Par exemple, manger avec les doigts. Et la Torah n'interdit pas de manger avec les doigts. Pourtant, c'est sale. C'est quoi ces manières de manger avec les doigts? Pourquoi la Torah n'interdit pas? Parce qu'à l'époque, c'était pas gênant. Il n'y avait rien de grave. On ne peut pas dire que c'était un péché atroce. On ne peut pas dire que c'est dramatique. La Torah ne l'a pas interdit. Il n'y a pas de problème. Ça dépend. Ce sont des choses qui dépendent de la période. Si les gens trouvent que c'est dérangeant de manger avec les doigts, là, c'est pas bien de le faire. Si les gens trouvent que c'est pas bien d'être polygame, alors c'est pas bien de le faire. Mais la Torah ne va pas faire un interdit de ça, puisque ça dépend des endroits. Manger avec les doigts ou manger avec des couverts, la Torah n'impose pas de manger avec des couverts, mais malgré tout, c'est pas joli de manger avec les doigts aujourd'hui non plus. On trouve aussi dans les poskim un truc très choquant. Il est marqué qu'il est permis de cracher, excusez-moi, aujourd'hui même d'en parler c'est dérangeant, de cracher dans une synagogue par terre à condition qu'on écrase avec le pied après. C'est quoi ces barbares là? C'est marqué dans Shulchan Aruch, hein? C'est Shulchan Aruch qui dit ça. Shulchan Aruch Haim Siman Kuf Nun Alef Siv Zayin, explicite dans Shulchan Aruch. On peut cracher par terre. Le Chaye Adam le ramène. Shulchan Aruch, c'est il y a 400 ans, mais Chaye Adam aussi le ramène. Chaye Adam, donc là, Yud Zayin Siv Yud Gimel, et il l'explique très intelligemment, étant donné que les gens le font chez eux aussi à la maison. Donc c'est pas un zilzoul pour la synagogue, ça marche. Mais il faut bien comprendre. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que le Chafetz Chaim, début du XXe siècle, il écrit dans Shahar HaTzion, là-bas sur place, il dit, tiens, mais de nos jours, il y a des gens qui ne crachent pas chez eux à la maison. Eh bien, ils ont un crachoir. Mais ils ne crachent pas à la maison par terre. Peut-être ces gens-là, ils ne devraient pas avoir le droit de cracher à la synagogue. C'est un manque de respect pour la synagogue. Tiens, on va leur interdire. Allez, hop! Ça veut dire que c'est il y a à peine un siècle. Et voilà, on commençait à se dire, ça ne se fait pas de cracher maintenant, donc il faut l'interdire. Mais en soi, on ne peut pas l'interdire. Et on ne peut pas reprocher à la Torah de ne pas l'avoir interdit clairement. On ne peut pas reprocher au Shulchan Aruch de ne pas avoir interdit de cracher, puisque ce n'était pas un zilzoul. Ces notions-là de savoir est-ce que c'est un zilzoul ou pas, un manque de respect pour l'endroit, c'est relatif à l'endroit et à l'époque. Bien sûr, il n'y a pas de mitzvah de cracher dans la synagogue, il n'y en a jamais eu. Il ne s'agit pas de remettre en place une mitzvah, ne vous trompez pas dans ce que je dis. Il ne s'agit pas de dire à l'époque la mitzvah, c'est parce qu'à l'époque ceci, mais maintenant c'est plus la mode. À l'époque, le hiboum, ça se faisait, maintenant, non. Non, la mitzvah reste encore aujourd'hui. Les mitzvot sont les mitzvot. Je parle des manières de se conduire des gens. Qu'est-ce qui est bonne manière, qu'est-ce qui n'est pas bonne manière? La polygamie, il n'y a pas d'interdit. Ça rentre dans le cadre bonne manière ou mauvaise manière. En matière de bonne manière, ça dépend de l'époque, ça dépend de l'époque, de comment les gens considèrent la chose. Si on parle d'une mitzvah explicite, bien sûr, c'est pas possible de dire ça. Le temps ne va rien changer. La mitzvah est là et la mitzvah reste. Donc la polygamie peut être quelque chose de bien ou de mal. Tout dépend de la hashkafa de la génération. Tout dépend de la manière dont on a formé son couple. Et aujourd'hui, la vérité, c'est qu'avec l'esprit moderne, européen, français ou européen d'aujourd'hui, si quelqu'un se mariait avec deux femmes, de toute façon, il ne serait pas content. Iman Afshar, deux choses. Une, soit les femmes ont un esprit qui n'est pas adapté à la polygamie. C'est-à-dire qu'elles attendent plus dans le lien du mariage. Et donc, il va y avoir des disputes, mais Aleph Attav, c'est ce qu'explique les acharonimes, que la takana, c'est pour éviter les disputes, à cause de ça. Soit ces femmes sont, oui, dans la mentalité polygame, parce qu'elles viennent de pays arabes, etc., et ça ne les dérange pas, mais là, le mari ne sera pas satisfait de telle femme. Ça n'intéresse pas à une femme avec cette mentalité-là. Il attend, lui aussi, autre chose du lien dans le mariage. Par conséquent, ça rime plus à rien de se demander oui ou non. Et donc, le chidouche ici, c'est qu'il est, je suis en train de dire qu'il est permis de se dire, il est permis de penser en fonction de notre époque que la polygamie est quelque chose de négatif. Pour nous, aujourd'hui, français, la polygamie c'est quelque chose de négatif, et je peux dire dans la même phrase que malgré tout, ce qu'ont fait David et Shlomo n'était pas du tout négatif. Limite, c'était positif, c'était très bien. Parce que, à leur époque, c'était très bien, comme le fait qu'ils mangeaient avec les doigts. Je veux dire qu'ils ont mal agi. Non, ils n'ont pas mal agi. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. C'était pas dérangeant. Mais malgré tout, aujourd'hui, quelqu'un qui mangeait avec les doigts, c'est écœurant. Donc, on ne peut pas comparer les générations. Et avec ça, on peut répondre la fameuse grande question, et c'est avec ça que je termine parce qu'il est déjà très tard, je m'excuse. Avec ça, on peut répondre notre grande kouchia du début. s'était demandé si la polygamie est négative, alors pourquoi la Torah l'a pas interdite, et si elle ne l'est pas, pourquoi Rabbeinu Gershom a interdite. Réponse, tout dépend de l'époque. Razak, messieurs, je m'arrête là.